Lettre 316, 320, une collection de nombreuses épîtres choisies à des amis, de ce ministre ancien, éminent et fidèle de Jésus-Christ, George Fox, volume 2, suite 316. Chers amis, tous ceux qui sentent la vie, et la puissance, et l'esprit du Dieu vivant, qui sont rendus vivants par le Christ Jésus, l'homme vivant céleste et spirituel, et qui sont ainsi venus se nourrir des choses célestes et spirituelles, vers lesquelles Christ, votre berger, vous dirige, selon votre capacité, votre âge et votre croissance, et qui apprennent ainsi à connaître celui que Dieu a envoyé pour vous nourrir, au-dessus de tous les nourriciers que les hommes ont envoyés. Regardez donc vers lui, qui, avec son filet qui est sa puissance, vous a rassemblé hors de cette grande mer, le monde. Et maintenant, ne bâtissez pas comme les insensés sur le sable du rivage, mais sur le roc et le fondement qui est Christ la vie, et qui tiendra contre la mort, les tempêtes, les vents et les orages. Et ainsi en regardant vers Jésus qui est votre Sauveur, qui vous a sauvé du flot de la destruction, lui qui est l'auteur de votre foi par laquelle vous pouvez marcher sur la mer du monde, en regardant vers celui qui l'achèvera. Et ainsi en vérité vous pouvez dire, la foi est votre victoire, voici votre victoire à savoir votre foi, don. Et la foi vient de l'écoute de la parole, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, et par laquelle toutes choses sont soutenues, elle qui vit demeure et subsiste à jamais. Cette parole est au commencement avec Dieu, et Dieu était la parole, cette parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Lui qui est ressuscité que vous venez maintenant entendre et voir, et non seulement cela, mais venir à devenir participant de sa gloire et de sa résurrection d'entre les. Ainsi bien reçons ceux et vous aussi, qui viennent à avoir part à la première résurrection, afin que sur vous la seconde mort n'ait aucun pouvoir, et ceux qui ont cette part connaissent ici une mort au péché, un dépouillement du corps de péché et de mort, une crucifixion du vieil homme avec ses affections et ses convoitises, et un rejet de celui-ci, et le fait d'être mort au rudiment du monde. Ainsi, ceux qui meurent avec Christ vivront avec lui, et ceux qui sont ressuscités avec Christ ne peuvent jamais toucher, goûter ni manier les dogmes. Mais que cela revête l'homme nouveau, qui selon l'image de Dieu est créé dans la justice et la sainteté, et qu'ils viennent ainsi à vivre en Christ, à marcher en lui, et à avoir leur part ou leur lot dans la première résurrection en Christ Jésus, et la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux, mais ils vivent en celui qui a pouvoir sur la mort, l'enfer et le tombeau et sur le diable et la puissance de la mort, le Christ Jésus, qui était avant qu'il fût, le premier et le dernier. Mais ceux qui ne veulent pas croire en Christ, la résurrection et la vie, sont pour la condamnation avec le diable, l'enfer et la mort, qui doivent être jetés dans l'étang de feu, et sur eux la seconde mort à pouvoir. C'est pourquoi tous ceux qui sortent de la mort, qui participent à la première résurrection, et savent qu'ils ont été morts dans les péchés et les offenses, et sont vivifiés par le Christ Jésus, et connaissent ici une vie en Christ et une mort avec Christ, tandis qu'ils sont sur la terre, car Jean l'a dit alors qu'il était sur la terre, la seconde mort n'aura aucun pouvoir sur eux, et ce qui ne crucifie pas la nature pécheresse, la seconde mort a pouvoir sur eux, laquelle, comme je l'ai dit auparavant, doit être jetée dans l'étang de feu qui brûle avec. C'est pourquoi vous tous qui êtes les prémices pour Dieu, dans la résurrection par Jésus-Christ, et qui le connaissez, lui la résurrection et la vie, et qui êtes transférés des ténèbres à la lumière, et dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui subsiste dans la justice et la sainteté, et la joie dans le Saint-Esprit, afin que vous manifestiez des fruits justes et saints pour que vous glorifiez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et que vous soyez comme des lumières pour le monde obscur, et du sel pour assaisonner ce qui est fade. Car tout sacrifice qui était offert à Dieu devait être assaisonné de sel. Ainsi tout sacrifice qui doit maintenant être offert à Dieu doit être assaisonné et rendu savoureux par ce sel céleste de son esprit céleste, afin que tous lui soient d'une bonne odeur, et soit comme un sacrifice d'agréable parfum au Dieu pur et saint, qui a tout fait pour sa gloire. Et vous ne pouvez produire ce fruit saint, juste et pur pour Dieu, qu'en demeurant en Christ Jésus, la vérité, lui qui est descendu et monté bien au-dessus de toute principauté, trônes et dominations, afin qu'il ait la prééminence sur toutes choses, et que vous, en lui, viviez au-dessus de tout pour Dieu. Ainsi que chacun de vous qui a reçu le Christ Jésus, le Seigneur de tous, marche en lui, qui est votre Seigneur, lui qui est l'Amen, et là tous les vivants peuvent louer Dieu ensemble, et les vivants se rassemblent au nom de Jésus, le nom de celui qui était mort, et qui est vivant de nouveau, et qui vit au siècle des siècles, lui qui est le premier et le dernier. Et ici vous savez tout ce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel entier, sinon dans le nom de Jésus, qui est un prêtre fait plus élevé que les cieux. Ainsi en son nom, tenez vos assemblées, en celui en qui vous avez le salut. Et ce sont là les vraies assemblées et les vrais rassemblements, ceux qui sentent Jésus-Christ au milieu d'eux, leurs prophètes, leurs conseillers, leurs guides, leur lumière et leur vie, leur chemin et leur vérité, leur berger qui a donné sa vie pour eux, lui qui vous a acheté, vous ses brebis, et qui vous nourrit dans ses pâturages de vie, et votre évêque céleste pour veiller sur vous, afin que vous ne vous égariez plus loin de Dieu. Ainsi c'est par lui que vous vainquez, et celui qui vaincra ne sortira plus de son enclos, de ses pâturages, il s'assiera dans les lieux célestes en Christ Jésus, qui est votre prêtre, qui s'est offert lui-même pour vous, et se sacrifie pour vous, et vous rend saint et pur, afin de vous présenter irréprochable devant le Dieu saint et pur. Et ici vous venez à le témoigner et à le connaître dans ses fonctions par sa lumière, son esprit et sa puissance, et toutes vos réunions d'hommes et de femmes dans la puissance de Dieu, qui était avant que le diable. Ainsi dans cet évangile éternel, la puissance de Dieu, dans lequel vous avez une communion éternelle et une domination sur tout péché et toute méchanceté, toute injustice, toute impureté, et tout ce qui est mauvais, vous avez domination sur tout cela, dans l'Évangile, la puissance de Dieu, oui, sur le diable. Et que chacun rende témoignage à cet Évangile et à son ordre, qu'il ne vient pas de l'homme ni par l'homme, et qu'il n'est reçu que par la révélation de Jésus-Christ envoyé du ciel, et tous les croyants qui ont part à la première résurrection, vivent, marchent et gardent l'ordre de cet Évangile, et ont ainsi pouvoir d'admonester, d'exhorter, de reprendre et de réprimander avec toute autorité ceux qui parlent de Christ et ne marchent pas en lui, ceux qui le professent et ne le possèdent pas, ceux qui ne vivent pas dans la religion qui fut établie. C'est pourquoi, tous les amis qui savez que vous êtes vivants pour Dieu par Jésus-Christ, et connaissez votre passage de la mort à Christ la vie, et des ténèbres à Christ la lumière, afin que vous veniez maintenant tous à être des aides dans votre restauration par Christ Jésus dans l'image de Dieu, et dans sa justice et sa sainteté, celles dans lesquelles l'homme et la femme étaient avant leur chute. Car avant leur chute, ils étaient des aides pour soumettre la terre. Ils avaient tous deux pouvoir dominion sur tout ce que Dieu avait fait, tant qu'ils demeuraient dans l'image de Dieu. C'est pourquoi je dis, vivez en lui et marchez en lui, et gardez la communion et l'ordre de son évangile, afin que les hommes et les femmes puissent être des aides, dans les réunions distinctes d'hommes et de femmes, les uns pour les autres dans l'évangile, la puissance de Dieu, dans la restauration, comme l'homme et la femme l'étaient avant leur chute. Ainsi, si les hommes ont quelque chose à communiquer aux femmes, ou les femmes aux hommes, dans la justice, la sagesse et la puissance de Dieu, dans l'ordre de l'évangile, où se gardent la communion, l'unité et l'ordre céleste, ils le peuvent, comme frères et sœurs. Voici donc le fondement de nos réunions, et nos réunions d'hommes et de femmes sont attestées par l'Esprit du Dieu éternel, leur fondement est Christ, de l'accroissement de son gouvernement juste, glorieux et spirituel et de sa paix il n'y a point de fin, pas plus que de l'unité et de l'ordre glorieux, éternel et céleste de son évangile céleste, que les esprits spirituels et célestes gardent et dans lesquels ils marchent en conséquence, ce qui ne vient pas de l'homme ni par l'homme, ainsi l'homme n'a point de gloire, mais Dieu est Christ seul. Ainsi que tous gardent l'unité de son Esprit éternel, qui est le lien éternel de votre paix céleste et éternelle, la paix de votre roi des rois, seigneur des seigneurs et prince des princes. Amen. Que tous les amis soient fidèles dans la puissance du Seigneur et dans son esprit, envers le Seigneur Dieu et sa vérité, qui est au-dessus de tout, et qui vous gardera au-dessus de tout, tandis que vous y vivez et y marchez tous pour la gloire de Dieu, et que vous portiez des fruits célestes à sa louange. Vivez donc dans la possession de la vie éternelle, qui était avant la mort. Ainsi, dans cette puissance de Christ, rien ne peut se mettre entre vous et le Seigneur, votre demeure éternelle. Ainsi, avec mon amour, George Fox Swarthmore le 10 mois 1675, 317 à tous les élus et choisis de Dieu en Christ Jésus, avant la fondation du monde. Amis et frères, le Seigneur m'impose de vous écrire les lignes qui suivent. Premièrement, le Seigneur Dieu m'a envoyé, dans sa lumière et sa puissance éternelle, prêcher la parole de vie, qui était avant la parole de mort, et tourner les gens vers la lumière, qui était avant les ténèbres et leur puissance, afin que tous puissent être réconciliés avec Dieu par la parole, et que tous puissent croire en la lumière, qui est la vie en Christ, la parole, et devenir ainsi enfants de lumière et connaître Christ, l'auteur de leur foi, et que leur foi demeure en celui qui en est l'auteur et le consommateur, et tourner les gens. Cet évangile, je ne l'ai pas reçu de l'homme ni par l'homme, mais du Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint envoyé du ciel. Et ainsi, après l'avoir reçu et prêché, et que plusieurs milliers y furent venus, en divers lieux du pays, alors, par cette même puissance, cet esprit et cette lumière, j'ai été poussé à conseiller l'établissement des réunions mensuelles et trimestrielles des hommes, et des réunions des femmes. Afin que tous soient dans la puissance de Dieu, l'Évangile, qui était avant que le diable fût, et dans la lumière, qui était avant les ténèbres, et tous dans l'Esprit Saint, avant que l'Esprit impur fût. Afin qu'ils soient tous en possession de la lumière, de l'Esprit et de la puissance de Dieu, et qu'ils gardent en cela cet ordre céleste de l'Évangile, étant héritiers de Christ et de son gouvernement, dont l'accroissement n'a point de fin. Cet ordre évangélique est au-dessus de tous les ordres d'Adam dans la chute, ou parmi les apostats de l'Évangile où étaient les apôtres, et il demeurera la puissance de Dieu, l'Évangile, quand ils auront disparu. Afin que tous les héritiers de la vie et de la grâce, et héritiers de l'Évangile, soient en possession et demeurent dans la puissance qui était avant la chute, et aucune apostasie ne peut entrer là-dedans. Ainsi, ici, dans cette puissance de l'Évangile, tous ont leur liberté, et tous ont l'unité, tous ont la liberté dans l'Esprit, et l'unité dans la lumière, et l'unité dans la foi dont Jésus-Christ est l'auteur, afin que tous voient lui et son gouvernement, qui est au-dessus du gouvernement d'Adam dans la chute, car il était avant le vieil Adam, et il sera quand il aura disparu. Et afin que tous soient en possession de Christ, et que, comme ils l'ont reçu, ils marchent en lui, l'homme céleste et spirituel, dont l'accroissement du gouvernement n'a point de fin, mais il y aura une fin au gouvernement du vieil Adam. Maintenant, amis, quiconque viendra, sous quelque prétexte que ce soit, pour modifier ses réunions, ou nier ou parler contre les réunions des hommes et des femmes, c'est l'esprit de confusion et d'opposition, qui semblerait vouloir faire quelque chose, mais dont l'œuvre est de troubler les esprits simples, et c'est le même esprit que celui de John Perrow, et remarquez sa fin et leur fin, et celle de ceux qui s'y joignent. Car il s'oppose à la puissance de Dieu, dans laquelle l'ordre est établi, et à l'esprit et à la lumière éternelle, dans lesquels les réunions d'hommes et de femmes ont été instituées, en lesquelles toutes choses doivent être établies et le sont, fixées dans la lumière qui était avant les ténèbres, et dans la puissance de Dieu avant que le diable fût, et dans l'Esprit Saint avant que l'Esprit impur fût, et qui demeurera quand il aura disparu. C'est pourquoi, gardez vos possessions en cela, dans la puissance de Dieu, et dans sa lumière et son esprit, afin que vous connaissiez la montagne du Seigneur établie au-dessus de toutes les montagnes. Et il n'y a que des esprits relâchés, et qui tendent au relâchement, qui s'élèvent contre les réunions d'hommes et de femmes, même si cela vient sous prétexte d'établir une meilleure voie, ou sous le seul prétexte de les déplacer à un autre jour, et peut-être sous prétexte de craindre la corruption qu'il y aurait à observer un jour. Tout cela vient d'un esprit corrompu de ténèbres, que Dieu frappera, car nous ne mettons aucune sainteté dans les jours habituels et constants des réunions mensuelles et trimestrielles. Car je voudrais qu'ils sachent tous que ceux qui sont héritiers de l'Évangile et de Christ Jésus sont rachetés de la vaine observation des jours, et des jours saints juifs et des chrétiens apostats pour Dieu par Christ, qui a fait tous les jours et toutes choses bonnes, et leurs yeux sont tournés vers le jour surnaturel de Christ, et ils sont les enfants de ce jour. Et c'est un esprit rampant, qui voudrait modifier les jours habituels et constants des réunions, sous prétexte d'empêcher les gens des corruptions de l'observation d'un jour fixe, ou sous prétexte de les tenir éloignés d'une forme, et voudrait ainsi attribuer sa tromperie à Dieu. Car ceux qui sont en possession de la puissance, par laquelle toutes les formes véritables et toutes choses sont soutenues, cette parole et cette puissance donnant forme et être à toutes choses, et tous ceux qui y sont, sont au-dessus de toutes ces choses et jugent tous ces esprits de ténèbres. Et ceux qui sont dans l'observation des jours ne sont pas héritiers de la puissance, ni de Christ, qui était avant que les jours fussent, et ceux-là ne peuvent s'asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus pour traiter les affaires de ses églises. Ainsi je dis que, après que les gens ont été tournés vers la lumière, la puissance et l'Esprit de Dieu, et qu'ils sont tous entrés dans la lumière, la puissance et l'Esprit de Dieu, tout cela doivent composer les réunions d'hommes et de femmes, et y sentir la sagesse de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites et créées, et avec elles être ordonnées et ordonner toutes choses à la gloire de Dieu, afin que la sagesse soit justifiée par ses enfants. Maintenant, au sujet de présenter tous les mariages devant les réunions d'hommes et de femmes, certains ont objecté, dans l'obscurité, que cela n'était pas comme au commencement. Or, au commencement nous n'étions que peu nombreux, et nous ne pouvions pas aussitôt être aussi sensibles au service de ces réunions que lorsque nous sommes devenus plus nombreux et un peuple constitué. Mais dès le commencement il y avait un souci de garder les choses nettes, car en 1653, plusieurs amis vinrent à moi au sujet du mariage, voulant savoir ce qu'ils devaient faire en ce cas. Et j'ai attendu le Seigneur, et j'ai vu dans sa lumière éternelle que tous ceux qui devaient se marier devaient le présenter à quelques amis fidèles, dans la sagesse de Dieu, afin qu'ils puissent l'examiner. C'étaient là mes paroles alors, comme on peut le voir dans un de mes écrits diffusés cette année-là. Et ensuite, j'ai été poussé à parcourir le pays, pour conseiller l'établissement des réunions d'hommes et de femmes, et à écrire à ces lieux où je ne pouvais aller, afin que tous les fidèles gardent leurs réunions dans la puissance de Dieu, et y soient affermis et établis, et que tout le mariage soit présenté devant les réunions d'hommes et de femmes, qui étaient dans la sagesse de Dieu et en possession de l'ordre évangélique, et qui avaient la charge des affaires de l'Église de Christ, afin que dans la sagesse de Dieu, ils puissent l'examiner et voir qu'il était lié. Et par conséquent, maintenant que ce prétexte est généralement ôté à tous, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas où trouver une réunion des fidèles à laquelle présenter leur mariage, avant de les déclarer dans les réunions publiques ordinaires. Maintenant que les réunions d'hommes et de femmes sont établies dans la puissance de Dieu pour veiller aux affaires des églises, car tous savent où les trouver à des jours, heures et lieux déterminés, afin d'y présenter cela. Et ceux qui marchent ensemble dans la vérité et la puissance de Dieu seront disposés à présenter leur mariage devant ceux qui sont dans la même vérité et la même puissance de Dieu, afin que toutes choses soient faites dans la vérité, l'amour, l'unité, et la pureté, la netteté et la sainteté, à la louange et à la gloire de Dieu. Et tous, quels qu'ils soient, qui s'opposent à ce bon ordre, sont des esprits relâchés, hors de la puissance de Dieu, et leur œuvre tend au relâchement et à attirer vers une liberté relâchée, sous le prétexte trompeur de tenir les gens hors des formes. Ainsi la même puissance et le même esprit qui, au commencement, ont dirigé à présenter tous les mariages devant les fidèles, lorsqu'il n'y avait que peu d'amis en de nombreuses régions du pays, et qu'il n'y avait ni réunion d'hommes ni de femmes. Je dis que la même puissance de Dieu qui a convaincu les amis au début, cette même puissance et cet esprit ont dirigé l'établissement des réunions d'hommes et de femmes, afin qu'ils soient en possession de l'Évangile et de son ordre. Et la même puissance et le même Esprit de Dieu ont établi notre ordre concernant les mariages dans nos réunions d'hommes et de femmes, à savoir que tous doivent d'abord parler à leurs parents et avoir leur consentement avant d'engager l'affection des enfants, et cet ordre est établi par la puissance de Dieu dans les réunions d'hommes et de femmes. Car autrefois certains ne parlaient ni au père ni à la mère avant d'avoir attiré et enlacé l'affection de la fille, et cela a causé de grands troubles et du mécontentement chez les parents et parmi les amis. C'est pourquoi cela doit être examiné dans les réunions d'hommes et de femmes, où l'on doit parler de leur mariage. Ainsi, à mesure que les amis viennent à la vérité dont le diable est dehors, et à la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût, tous étant héritiers de la vie et de l'évangile, et héritiers de Christ, je dis, prenez possession de la vie, entrez dans l'ordre de la vie et dans l'ordre de l'évangile, alors vous aurez un témoignage en vous-même, et vous direz avec moi, notre ordre ne vient pas de l'homme ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et son évangile, et de son gouvernement, dont l'accroissement n'a point de fin. Ainsi que tout soit fidèle, demeurant dans vos possessions et dans votre héritage, là où aucune apostasie ne peut entrer, car je dois vous dire, voici le même esprit qui s'agit, et qui, s'il pouvait prévaloir, ravagerait l'héritage de Dieu et vous ferait sortir de vos possessions afin de régner sur vous. Mais si vous gardez vos possessions de l'ordre de l'Évangile, la puissance de Dieu en Christ Jésus vous dominerait sur lui, étendant et sur le fondement de Dieu qui demeure ferme, même si des esprits terrestres et relâchés peuvent être. Mais remarquez-en la fin, car la puissance demeure et demeurera, et la semence règne sur la tête de tous ces esprits, ordres et gouvernements faux qui ne sont pas établis par Jésus-Christ, et elle les réduira en poussière. Telle est la parole du Seigneur Dieu pour vous, que qui voudra s'y oppose, car la puissance était avant eux, et elle demeurera quand ils auront disparu. Car toutes nos réunions d'hommes et de femmes, qui sont établies par la puissance et l'Esprit de Dieu, ces réunions servent à la pratique de la religion, et à veiller à ce que tous ceux qui professent la vérité la pratiquent et y marchent. Et tous ceux qui s'y opposent engendrent les gens à parler et non à marcher, à dire et ne pas faire, et cela ont toujours été jugés par tous ceux qui marchaient dans la vérité et dans la religion pure, qui est sans tache devant Dieu, et qui gardait et garde des souillures du monde. Et de tels gens ne sont jamais susceptibles de prospérer, eux qui s'opposent à la pratique de la religion pure. C'est pourquoi, comme je l'ai dit auparavant, vivez dans la possession de l'Évangile et de son ordre, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût, ou avant même l'apostasie, et connaissez son gouvernement, dont l'accroissement n'a point de fin, lui qui est établi d'éternité en éternité. L'Amen. Et vivez dans l'amour et l'unité les uns avec les autres, car cela édifie le corps de Christ, et c'est ce qui supportera toutes choses, et dans la patience courez la course, et obtenez la couronne, et demeurez dans la douceur de l'agneau qui aura la victoire. Et ces opposants qui crient contre les formes, les prescriptions et les édits des hommes, ce sont eux-mêmes aujourd'hui ceux qui y sont le plus, et ils se rassemblent dans une séparation, par des prescriptions et des souscriptions, et sous prétexte de crier contre de telles choses, ils s'opposent à la puissance et à ceux qui en sont en possession. Mais la puissance les frappera et les fera se dessécher, comme l'herbe et le blé sur les toits, comme elle l'a fait pour John Perrot et sa compagnie, à qui ce fut alors la parole du Seigneur, et ainsi l'est-elle pour ceux-ci maintenant, et la parole vit, demeure et subsiste à jamais. Ainsi, avec mon amour en notre Seigneur Jésus-Christ envers vous tous, en qui est mon labeur et ma peine pour votre bien éternel et votre affermissement sur le roc éternel. Amen. Adieu, George Fox. Que ceci soit lu dans les réunions d'hommes et de femmes, lorsque les amis sont assemblés ensemble. Swarthmore, le 12 jour du 12 mois 1675, 318, tous chers amis et frères. Maintenez votre témoignage dans la lumière, la puissance et l'Esprit de Dieu, pour le culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, en esprit et en vérité, cette vérité dont le diable est dehors, lui qui est un esprit impur, un culte qui ne peut être ébranlé. Et maintenez votre témoignage contre le ministère antichrétien, qui intérieurement, s'est repu en s'éloignant de l'Esprit de Dieu et de la lumière de Christ, et contre ses dîmes et son entretien antichrétien, qu'il a établi par cet esprit intérieurement rapace, qui s'est repu loin de l'Esprit de Christ, lequel a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et les ministres de Christ n'ont convoité ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Et maintenez votre témoignage dans la puissance de Christ, pour l'Église faite de pierres vivantes, dont il est la tête, qui sont les premiers-nés inscrits dans les cieux, une maison spirituelle, un sacerdoce royal, qui offre des sacrifices spirituels. Afin que chacun ait quelque chose à offrir de l'Esprit à Dieu, eux qui sont de l'Église qui est en Dieu, rassemblés par la puissance et l'Esprit de Christ pour lui, eux qui se nourrissent du pain descendu du ciel, et boivent le vin céleste, et deviennent ainsi chair de sa chair et os de ses os, et s'assoient ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, lui qui est la tête céleste et spirituelle de son Église, qui est écrite dans le ciel. Et maintenez aussi votre témoignage pour votre religion pure et sans tache, et pour la sagesse d'en haut. Et maintenez votre témoignage pour la croix de Christ, qui est la puissance de Dieu, par laquelle le monde est crucifié pour vous, et vous pour le monde. Et vous qui étiez morts et qui êtes ressuscités avec Christ, maintenez votre témoignage pour ces choses que vous avez cherchées, trouvées et reçues d'en haut, ces choses célestes, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et de même, maintenez votre témoignage pour le chemin nouveau et vivant, le Christ Jésus, et de même pour la lumière de Christ en laquelle vous croyez et dont vous êtes devenu enfant, enfant de la lumière et du jour. Et maintenez votre témoignage pour vos réunions d'hommes et de femmes, dans la puissance de Dieu, par laquelle vous êtes rassemblés hors de l'apostasie, et au-dessus d'elle, dans l'ordre de l'Évangile éternel, comme au jour des apôtres. Cet ordre évangélique ne vient pas de l'homme ni par l'homme, mais par Christ, l'homme spirituel. Et vous tous qui êtes ministres de cet Évangile, aidez et encouragez toutes ces femmes, dans leurs réunions, qui travaillent dans l'Évangile, et les femmes peuvent, dans la même puissance de Dieu, l'Évangile, vous aider et vous assister. Ainsi vous pouvez être des aides ensemble, dans la restauration par Christ, dans son Évangile et son ordre glorieux, qui ne sont jamais tombés, ni changés, ni ne changeront, afin que toutes les plantes que Dieu a plantées puissent fleurir, bourgeonner et croître, et porter du fruit, à la louange et à la gloire de Dieu dans sa puissance. Et cet Évangile de Christ Jésus est éternel, saint et glorieux, et vous tous qui le sentez en êtes héritiers, il a mis en lumière en vous la vie et l'immortalité. Cet Évangile, la puissance de Dieu, était avant que le diable fût, lui qui vous avait obscurci. Maintenant, dans cette puissance de Dieu, l'Évangile est toute votre consolation et la bonne nouvelle, et une joie éternelle dans cet Évangile éternel, et une possession et une consolation éternelle dans l'ordre éternel, qui est l'Évangile de Christ Jésus, lui qui est le premier et le dernier, l'homme céleste et spirituel, son ordre spirituel et céleste, que ces êtres spirituels et célestes doivent garder et dans lequel ils doivent marcher. Et amis, maintenez votre témoignage contre les voix, les paroles, les modes, les coutumes et les cultes vains du monde, comme vous l'avez fait au commencement, et pour votre langage propre, sain et simple. Et amis, maintenez votre témoignage au Seigneur dans toutes vos souffrances et afflictions, car c'est par le témoignage de Jésus et par le sang de l'agneau que les saints ont vaincu et vainquent, et le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, par lui ils voient celui qui leur donne leur victoire, ils sentent celui qui a souffert pour eux, et dans toutes leurs souffrances et afflictions, ils souffrent avec et est affligé avec lui qui peut sauver parfaitement, et vous aider et vous secourir dans toutes les détresses, lui qui est béni à jamais. Amen. Et amis, maintenez votre témoignage, vous qui êtes enfants de la nouvelle alliance, et enseignés par Dieu, dans les cœurs desquels Dieu a écrit sa loi et l'a mise dans vos pensées pour votre conseiller et guide que Dieu vous a donné, et pour votre prophète que Dieu a suscité, que vous devez écouter, et pour votre berger que Dieu a donné, qui a donné sa vie pour vous, qui vous a racheté des bergers mercenaires du monde, et vous conduit dans son pâturage de vie, et vous fait reposer dans son enclos. Et maintenez votre témoignage pour Christ, votre prêtre, fait plus élevé que les cieux, qui a donné sa vie pour vous, vous a sanctifié, et vous présente à Dieu sans tache ni ride, lui qui est saint, innocent et séparé des pécheurs. Ainsi maintenez votre témoignage pour votre évêque céleste et spirituel, le Christ Jésus, qui est l'évêque de vos âmes, qui veille sur vous par sa lumière, sa puissance et son esprit. Et maintenez votre témoignage pour les souffrances et la résurrection de Jésus-Christ, car ceux qui souffrent avec lui régneront avec lui. Mais ceux qui rustent et fuient au temps de la persécution, et le renient devant les hommes, il les reniera, ou aura honte d'eux, devant son Père céleste. Ceux qui le renient, ou ont honte de lui, devant les hommes de la terre, craignent la colère des hommes plus que la colère de Dieu, et ceux-là sont le sol pierreux, dont la pousse est brûlée par la chaleur de la persécution. Mais la bonne semence semée dans la bonne terre porte 30, 60 et 100 pour un an cette vie. Et maintenez votre témoignage pour votre unité dans la foi, qui vous donne la victoire, et pour votre communion et unité dans l'esprit, qui est le lien de la paix du Prince des Princes, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Amen. George Fox 319, aux amis de Nevis et des îles des Caraïbes. Chers amis, à vous tous à Nevis et dans les îles des Caraïbes alentour, j'ai vu une lettre de quelques-uns d'entre vous, dans laquelle je comprends qu'il y a eu quelques scrupules concernant le fait de monter la garde, ou d'envoyer des gardes à votre manière. Vraiment, amis, je vous déclare ceci, c'est une grande miséricorde du Seigneur que de soumettre l'esprit du gouverneur à ce point, par sa puissance et sa vérité, qu'il vous permette de monter la garde à votre manière, sans porter d'armes, ce qui est fort civil et mérite d'être remarqué. Car si les amis pouvaient obtenir la même chose en Jamaïque et ailleurs, ils l'auraient volontiers fait, et se sont proposés de le faire au gouverneur. Mais parce qu'ils ne voulaient pas apporter épée et fusil, et autres armes, pour monter la garde contre les Espagnols, comme ils le prétendaient, l'amende habituelle était d'environ 17 shillings par manquement de chaque homme, mais ils en prenaient souvent pour 30 shillings, et en attachaient certains par le cou et les talons en plus, jusqu'à ce que le sang sorte de leur bouche, de leur nez et de leurs oreilles. Et j'en ai vu la trace consignée par écrit, cela s'étant librement proposé pour monter la garde à leur manière, mais cela n'a pas été accepté. Et ailleurs, cela a été la même chose. Et maintenant, quant à la garde en elle-même, ne surveillez-vous pas vos plantations contre les voleurs la nuit, Et n'établit-on pas des gardes ordinaires pour découvrir les voleurs dans les villes, ou les cambrioleurs, ou ceux qui pourraient méchamment mettre le feu aux maisons? Nous étions soumis à de telles choses civiles, et nous nous y soumettons, par motif de conscience, à toute ordonnance humaine de ce genre, qui vise à punir les malfaiteurs et à louer ceux qui font le bien. Or, ces malfaiteurs qui pourraient voler vos plantations ou vos maisons, vous vous plaignez d'eux aux magistrats pour qu'ils les punissent, bien que vous ne puissiez pas jurer contre eux, ou si les Indiens viennent voler vos plantations ou vos maisons, vous vous plaignez aux magistrats pour qu'ils punissent ces malfaiteurs, afin de les arrêter, ces magistrats étant là pour la louange de ceux qui font le bien. Ainsi, cette garde sert à prévenir les voleurs et les meurtriers, et à empêcher qu'on brûle des maisons. Nous nous soumettons à toute ordonnance humaine de ce genre, pour l'amour du Seigneur, car l'apôtre exhortait à la soumission, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien, car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés, comme des hommes libres, n'usant pas de votre liberté comme d'un voile pour la méchanceté, mais comme serviteurs de Dieu, afin que la justice, la vérité et la droiture s'établissent. Notez, toute bonne œuvre qui est contre le mal, comme l'ivrognerie, le meurtre, la fornication, ces choses et toutes sortes d'impuretés, jusque-là nous pouvons leur obéir dans la puissance et la vérité du Seigneur, tant qu'ils agissent contre le mal et contre ce qui déshonore Dieu, et s'ils agissent contre le bien, ou s'ils veulent nous contraindre à des choses qui sont pour nous matière de conscience envers Dieu, nous ne résistons pas mais souffrons sous eux. Car les autorités ne doivent pas être une terreur pour ceux qui font le bien, mais pour ceux qui font le mal. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité ? Fais ce qui est bien, et tu recevras d'elle des éloges, car elle est servante de Dieu pour ton bien, car elle doit réprimer le mal. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, car elle est servante de Dieu pour exercer la vengeance et exécuter la colère sur celui qui fait le mal. Ainsi, elle est l'instrument de vengeance et l'exécutrice de la colère sur le malfaiteur, comme Dieu l'a établi contre l'adultère, et contre celui qui vole ou tue, et qui porte un faux témoignage, etc. Mais lorsque le magistrat tourne son épée en arrière contre le juste et le droit, alors il abuse de son pouvoir, et les justes souffrent sous lui. Et c'est pourquoi ceux-là ont été avertis par les justes, comme vous le voyez à travers les Écritures. Ainsi vous ne devez pas être les vengeurs, mais c'est lui qui est le vengeur. Et à cette puissance qui exerce la vengeance et fait tomber l'épée sur l'adultère, le meurtrier, le voleur, le faux témoin et les autres malfaiteurs, nous devons être soumis à cette puissance, et la reconnaître non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience, car elle sert à punir les malfaiteurs et à louer ceux qui font le bien. Car si quelqu'un venait brûler votre maison, ou vous voler, ou venir ravir vos femmes ou vos filles, ou si une troupe venait incendier une cité ou une ville, ou venir tuer des gens, ne veillez-vous pas contre de telles actions, et ne veillerez-vous pas contre ces maux, dans la puissance de Dieu, à votre manière. Vous ne pouvez que signaler de telles choses aux magistrats, qui doivent les punir. C'est pourquoi la garde est tenue et postée pour découvrir ces gens aux magistrats, afin qu'ils soient punis. Et s'il ne le fait pas, il porte l'épée en vain. Ainsi, si vous veillez sur votre propre plantation contre les voleurs, à votre manière, pour votre bien et celui de vos voisins, contre ceux qui voudraient incendier votre plantation et celle de votre voisin, et vous détruire et vous voler, ne signalerez-vous pas cela aux magistrats pour qu'ils punissent ces malfaiteurs, eux qui sont établis pour punir les malfaiteurs et exécuter la colère sur eux, et pour louer ceux qui font le bien? Certainement oui. Et c'est pour cette raison que nous leur payons le tribut, et rendons à César ce qui lui est dû, afin que nous menions sous leur autorité une vie pieuse et paisible, puisqu'ils sont les ministres de Dieu appliqués précisément à ceci, savoir, punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien, car la loi n'a pas été faite pour le juste, mais pour le pécheur et le désobéissant, ce qui est bon dans sa place. Or, s'ils ne font pas leur devoir, nous sommes quittes en leur donnant leur tribut ou leur droit. Je dis, s'ils ne font pas leur devoir de contenir les malfaiteurs et d'être pour la louange de ceux qui font le bien, Dieu Tout-Puissant se tournera contre eux. Mais si le magistrat voulait tout, tant ce qui est dû à Dieu que ce qui est dû à César aussi, cela nous ne pouvons le donner, car Dieu doit avoir son culte, sa louange, son honneur et ce qui lui est dû, et César doit avoir ce qui lui est dû, son droit et son tribut terrestre, et ainsi en ceci nous rendons à Dieu les choses qui sont à Dieu, et à César les choses qui sont à lui. Et tandis que certains pourraient dire que l'apôtre ne voulait pas manger de viande, de peur d'offenser son frère, cela se faisait pour un motif religieux, et non pour éviter d'offenser le magistrat, qui est établi pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien. Et tandis que l'apôtre dit en Col 2:20-22, « Si donc vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui toutes périssent par l'usage, suivant les commandements et les doctrines des hommes. » Or ces ordonnances, ces doctrines, ces commandements concernaient la religion et le culte, et c'était autre chose, là où l'apôtre dit « Soyez soumis à toute ordonnance humaine, à cause du Seigneur, pour punir les malfaiteurs. » 1 Pie 2:13-14. « car c'était à cause du Seigneur, ce qui était pour la louange de ceux qui font le bien et pour la punition du malfaiteur. Il fait donc ici une distinction. Et vous savez que les maîtres de navire et les amis ont leur veille toute la nuit, et ils veillent pour préserver le navire et prévenir tout ennemi ou tout dommage qui pourrait survenir au navire par les passagers ou autrement. Et Christ vint à la quatrième veille de la nuit, marchant sur la mer, etc. Et Pierre était dans le navire, ainsi que ses disciples, comme vous pouvez le voir en Matthieu 14, 25 et en Marc 6, 48. Et Simon-Pierre possédait une part du navire, comme vous pouvez le voir en Luc 5, 10. Et ainsi Jacques et Jean, fils de Zébédée, étaient associés avec Simon. Et Christ dit, Luc 12, 37, 39, parlant de sa venue et exhortant à veiller. S'il a à savoir, le maître venait à la deuxième ou à la troisième veille, et les trouvait veillants, heureux sont ses serviteurs. Ainsi cette veille était pour Christ, et contre le péché et le mal dans leur propre cœur. Et ensuite il apporte une comparaison, sachez ceci, si le bon homme de la maison, dit-il, avait su à quelle heure le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé forcer sa maison, etc. Ainsi voici la veille du bon homme contre le péché et le mal au dehors, et contre le pilleur et le voleur du dehors, que le magistrat doit châtier et frapper de son épée. Et voici aussi une veille contre le péché et le mal au-dedans, et une attente pour recevoir Christ le Seigneur à sa venue. Et de même qu'on ferme les portes extérieures pour tenir dehors les meurtriers et les voleurs, et qu'on les verrouille et qu'on les ferme à clé. De même on ferme et on verrouille la porte du cœur pour empêcher l'adultère et le meurtrier, et tout ce qui est trompeur d'entrer au-dedans dans le cœur. Et amis, les prêtres et les professeurs avaient l'habitude d'invoquer cette écriture, « Vous devez être soumis à toute ordonnance humaine à cause du Seigneur, afin que nous leur payions leur entretien et que nous soutenions leur culte. » Et lorsque les magistrats invoquaient cette écriture à ses fins, nous ne pouvions pas leur obéir en ces choses, ni toucher ni goûter leurs ordonnances, doctrines ni commandements. Mais être soumis à toute ordonnance humaine à cause du Seigneur, ce qui était pour la punition des malfaiteurs tels que les ivrognes, les voleurs, les meurtriers, les adultères et autres semblables et pour contenir de tels malfaiteurs, afin que nous menions sous leur autorité une vie pieuse et paisible, ce qui était pour la louange de ceux qui font le bien, cela nous l'avons toujours reconnu et accepté, et nous y étions soumis et nous veillions contre le mal, et déclarions contre lui à notre manière, et présentions de tels auteurs et de tels actes aux magistrats. Ainsi, là où les amis ont le gouvernement, comme à Rhode Island et dans cette province, les amis étaient disposés à veiller, à leur manière, et ils firent une loi selon laquelle nul ne devait être contraint de prendre les armes. Ainsi les amis ont toujours offert aux magistrats, bien qu'ils ne puissent se joindre à eux pour porter des armes, des épées et des pistolets, de veiller toutefois à leur manière contre le malfaiteur. Et cela, ils l'ont proposé à la Barbade, comme je l'ai entendu, afin de découvrir si des nègres devaient se soulever pour brûler des plantations, ou voler, ou faire quelque mal, ou encore si d'autres Indiens envahissaient leurs terres. Et ainsi, si des Indiens étrangers venaient pour voler vos biens ou pour tuer, que l'on vous laisse dans votre liberté de veiller à votre manière, et de signaler aux magistrats ceux qui voudraient détruire vos vies ou vos plantations, ou voler, qu'ils viennent d'ici ou qu'ils viennent de l'étranger, de tels malfaiteurs, le magistrat doit les punir, lui qui est pour la louange de ceux qui font le bien. Ainsi vous pouvez vivre et mener sous leur autorité une vie pieuse et paisible. Et vous qui êtes justes, en veillant, en découvrant et en déclarant contre de tels malfaiteurs et de telles choses, vous vous dégagez et démontrez que votre témoignage est contre de telles choses. Et si les magistrats étaient mal disposés, et que Dieu amena les malfaiteurs comme une verge sur eux, pourtant vous êtes quittes dans votre témoignage, vous qui connaissez la vérité, et vous êtes dans votre devoir et dans votre obéissance. Et c'est pour cette cause qu'il a son tribut, son droit et ce qui lui est dû, et le double honneur s'il gouverne bien, et Dieu a sa louange et son honneur, et dans cette puissance et cette vérité de Dieu, qui sont contre la fausseté et la puissance des ténèbres, et dans la lumière qui est contre le mal, et dans la vie qui est contre la mort, vous lui faites découvrir les méchants, afin qu'il les punisse sur de justes preuves, et s'il ne le fait pas, cela retombera sur lui. Et s'il fait la louange du mal et décourage le bien, alors le Seigneur traitera avec lui, et bien qu'à l'égard de tel, par conscience et pour l'amour du Seigneur, nous ne puissions être soumis au mal, mais que nous en souffrions plutôt, nous sommes soumis à ce qui punit et réprime le mal, et nous nous en réjouissons. Et nous désirons que la justice soit au premier rang chez tous les magistrats, qu'ils entendent les amis à leur oui ou à leur non, lorsqu'ils viennent à eux et leur découvrent le mal, afin qu'ils puissent voir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ainsi les amis peuvent leur découvrir tout ce qui est mauvais, ce qui vient dévorer et détruire, tant au dedans qu'au dehors, tant dans l'île qu'en dehors, à ce qui devrait le réprimer. Et ainsi dans la puissance éternelle du Seigneur, en laquelle se trouvent la liberté et la domination, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde dans sa puissance et sa vie, dans l'évangile qui met en lumière, en vous la vie et l'immortalité, afin que vous voyiez au-dessus du diable qui vous avait obscurci et vous avait tenu séparé de Dieu, de sorte que par son évangile la puissance de Dieu qui était avant que le diable fût et qui sera quand il aura disparu, lui qui fut l'auteur de la discorde, que dans cette puissance vous puissiez. Ainsi dans cet évangile, la puissance de Dieu, où la vie et l'immortalité sont mises en lumière, vous pouvez garder et sentir votre communion éternelle et l'ordre de l'évangile, qui n'est pas de l'homme ni par l'homme. Ainsi mon amour à tous les amis dans toutes ces régions, comme si je les nommais, et soyez en paix les uns avec les autres, ne vous jugez pas les uns les autres sur de telles choses, mais vivez dans l'amour qui édifie. Et dans la puissance de Dieu, que vos cœurs, vos âmes et vos esprits s'unissent en elle, et que tous vous marchiez comme il convient à l'Évangile, et que vos vies et vos conduites prêchent, afin qu'avec une mesure de l'Esprit de Dieu vous puissiez atteindre ce qui est Dieu en tout, de sorte que son nom soit glorifié et qu'il soit honoré, par votre abondante production de fruits spirituels célestes, issus de la semence céleste que Christ, le céleste semeur, a semé dans vos cœurs, afin qu'au centuple de sainteté, de justice, de piété et de vertu. Et ne donnez à vos adversaires aucune occasion, ni dans vos vies ni dans vos paroles, mais afin que vous puissiez tous servir Dieu dans la vie nouvelle, montrant que vous êtes des hommes nouveaux, et que vous êtes renouvelés à l'image de Dieu, et que vous êtes nés de nouveau de l'immortelle semence céleste, par la parole éternelle et perpétuelle, qui vit, demeure et endure pour toujours. Et que vous vous nourrissez du lait et du pain céleste d'en haut, et que votre citoyenneté est dans les cieux, et que vous êtes revêtus du fin lin céleste, qui est la justice des saints, qui est la livrée de Christ de l'homme céleste et spirituel, par quoi ses serviteurs sont connus à son insigne de justice, et distingués de tous les serviteurs du vieil Adam, de l'Égypte, de Sodome et de Babylone, avec leur insigne d'injustice. Ainsi soyez vaillants pour la vérité de Dieu sur la terre, et répandez-la au loin, prêchez Christ et son royaume, sa lumière, sa grâce, sa vérité aux hommes, afin que tous y marchent, et prêchez son jour redoutable sur tous les parleurs de Dieu et de Christ, de ses prophètes et des paroles des apôtres, qui ne marchent pas dans la même puissance, le même esprit et la même vie, la même grâce et la même vérité que ceux-ci marchaient. Je dis prêchez cela aux magistrats, et parmi les hommes païens, et montrez-vous comme ayant été vivifiés par Christ, vous qui étiez morts dans les péchés et les offenses, mais qui maintenant avez été rendus vivants par lui, et ainsi manifestez sa lumière, sa vie et sa vérité, et que vous êtes éveillés à la justice, et par conséquent montrez-la à ceux qui dorment dans l'injustice, afin que la gloire du Seigneur et sa puissance juste, sa vérité, sa lumière et sa vie se répandent sur tous pour sa gloire sur tous à jamais. Amen, et je pourrais beaucoup vous écrire au sujet de ces choses, mais je n'ai pas été très bien, mais béni soit le Seigneur Dieu, sa semence éternelle est au-dessus de tout, elle qui règne d'éternité en éternité, et ma vie est en elle. C'est pourquoi, tenez ferme et vivez dans le nom et la puissance du Seigneur, qui sont contre toutes sortes d'injustices, et dans la lumière, qui est contre les ténèbres et toutes leurs œuvres, et dans la vie, qui est contre la mort, au-dessus de la mort et de tous ses agents, et dans la vérité, qui est au-dessus de tout mal et contre tous ceux qui le commettent, au-dedans et au-dehors. Et ainsi afin que, dans la lumière, la vie, la puissance et la vérité de Dieu, et dans son Saint-Esprit, vous viviez dans la communion et dans l'unité de l'Esprit, qui est votre lien de paix, oui, même la paix du Prince des Princes que le monde ne peut vous ôter. George Fox Swarthmore, le 5 jour du 9 mois, 320. Un encouragement à toutes les réunions de femmes fidèles dans le monde, qui s'assemblent dans la crainte de Dieu, pour le service de la vérité. Où elles peuvent voir comment les saints hommes encouragèrent les saintes femmes, saintes au temps de la loi et au temps de l'Évangile, quoique des hommes égoïstes et impies puissent chercher à les décourager. Mais continuez au nom et dans la puissance de Christ et prospérez. Amis, vous pouvez lire dans l'Ancien Monde comment, d'une famille à l'autre, jusqu'au temps de Noé, on servit le Seigneur Dieu. Et ensuite, depuis Noé, Abraham, Isaac et Jacob et leurs femmes, puis, après que Moïse et Aaron eurent fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et qu'ils étaient devenus un grand peuple, Moïse dit, « Puissent tous les peuples du Seigneur être prophètes. » Nom 11, 29. Et lorsqu'un jeune homme dit à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp, et qu'il aurait voulu que Moïse les en empêchât, Moïse lui répondit encore, « Plaise à Dieu que tout le peuple du Seigneur soit prophète, et que le Seigneur mette son esprit sur eux. » Ainsi Moïse ici, qui était capitaine, gouverneur et juge sur Israël, était loin d'empêcher quiconque de prophétiser dans le camp, mais il reprit l'envie de celui qui aurait voulu qu'il les interdise, et de plus, il les encouragea en disant, « Plaît à Dieu que tout le peuple du Seigneur soit prophète, et assurément tout le peuple du Seigneur se compose tant d'hommes que de femmes. » Et le Seigneur ayant donné sa loi aux enfants d'Israël, qui étaient saintes, justes et bonnes, le Seigneur dit, « J'ai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, afin que, par cet esprit, ils puissent comprendre sa loi, qui était spirituelle. » Et 39, 29. Or, au temps de la loi, il y avait les assemblées des femmes, car toutes les femmes sages de cœur travaillaient de leurs mains à ces choses saintes que Dieu avait commandées. Et toutes les femmes dont le cœur fut éveillé dans la sagesse travaillèrent à ces choses saintes qui appartenaient au tabernacle et au sanctuaire, comme vous pouvez le voir en Exode 35, 26, 29. Et de même les assemblées des femmes, au chapitre 38, et des femmes s'assemblant à la porte de la tente d'assignation, et dans la marge il est dit qu'elles s'assemblaient par troupes. Or, ici vous pouvez voir que les femmes étaient à l'œuvre et au service de Dieu autant que les hommes, et qu'elles avaient leurs assemblées. Car Dieu avait répandu son esprit sur la maison d'Israël pour leur donner l'intelligence, aux hommes comme aux femmes, de faire cela et de réaliser ces choses que Dieu avait commandées, appelées choses saintes, lesquelles n'étaient que des figures et des ombres de la substance, Christ Jésus le Saint. Or Moïse et Aaron, et les 70 anciens, ne dirent pas à ces assemblées de femmes, « Nous pouvons faire notre travail nous-mêmes, et vous êtes plus faites pour rester à la maison à laver la vaisselle », ou de telles expressions, mais ils les encouragèrent dans l'œuvre et le service de Dieu, dans ces choses que Dieu leur avait commandées au temps de la loi. Car Dieu ayant répandu son esprit sur la maison d'Israël pour leur donner l'intelligence de faire ces choses qu'il leur avait commandées, par cet esprit leur cœur était stimulé pour accomplir l'œuvre de Dieu, tant les hommes que les femmes. Et au temps de la loi, les femmes devaient offrir des sacrifices et des offrandes, tout autant que les hommes sur l'autel de Dieu, comme vous pouvez le voir chez Anor, lorsqu'elle amena Samuel et l'offrit au Seigneur. Elle l'amena à la maison du Seigneur à Silo, et lorsqu'elle l'amena, elle prit avec elle 3 taureaux, en plus de la farine et du vin. Voyez donc comment elle acquitta ses vœux envers le Seigneur et offrit ses sacrifices sur l'autel de Gaël. Et d'autres passages pourraient être montrés au sujet des offrandes et des sacrifices des femmes. Et vous pouvez voir le zèle ferve d'Anne pour Dieu, et quels longs discours elle prononça pour magnifier et exalter le Seigneur, en 1 Samuel 2:1. Et ainsi vous pouvez voir que les offrandes et les sacrifices des femmes étaient acceptés sur l'autel de Dieu, tout autant que ceux des hommes. Mais le salaire d'une prostituée ne devait pas être apporté dans la maison de Dieu pour un vœu quelconque, car c'était une abomination pour le Seigneur. 2 Samuel 23:18. Or le mari d'Anne, et les maris des autres femmes qui offraient leurs offrandes sur l'autel de Dieu, ne s'en offensèrent pas, et ne dirent pas que leurs offrandes suffisaient pour eux deux, mais chacun devait offrir lui-même ses sacrifices de communion et ses sacrifices d'action de grâce et autres offrandes. Ainsi ici vous pouvez voir le service et le travail des femmes, et combien les femmes étaient utiles dans leurs assemblées au temps de la loi, autour du tabernacle et des choses saintes, et comment les femmes offraient sur l'autel de Dieu tout autant que les hommes, elles avaient leur liberté. Mais le salaire de la prostituée devait être tenu hors de la maison de Dieu, et ne pas être offert sur l'autel de Dieu. Ainsi vous pouvez voir que l'homme et la femme étaient des aides l'un pour l'autre dans le paradis, avant la chute, et la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, et après que Moïse eut reçu la loi de Dieu, qui triompha de la mort et du péché qu'il avait apporté, il vit l'état de l'homme et de la femme dans le paradis. Hommes et femmes, au temps de la loi, furent de nouveau des aides l'un pour l'autre, dans l'œuvre et le service des choses saintes autour du tabernacle et du sanctuaire, et les femmes avaient leurs assemblées. Et il est dit en Joël 2, 28-29 et en Actes 2, 17-18, que le Seigneur répandrait de son esprit sur toute chair dans les derniers jours ou temps. Ainsi cet esprit étant répandu sur toute chair dans les temps chrétiens, fils et filles, servantes et serviteurs, vieillards et jeunes gens, afin que par l'Esprit de Dieu tous ceux-ci aient ses visions, ses prophéties et ses songes, et c'est son esprit par lequel tous doivent profiter dans les choses éternelles, et servir Dieu en esprit tant hommes que femmes, fils et filles, vieux et jeunes, servantes et serviteurs, tous offrent à Dieu ses sacrifices spirituels. Car tous étant morts dans le vieil Adam terrestre, Christ, l'Adam céleste, a goûté la mort pour eux tous, et il est une propitiation pour les péchés du monde entier. Et il éclaire tous, et sa grâce est apparue à tous, et son esprit est répandu sur toute chair, et son évangile, qui est la puissance de Dieu, est prêché à toute créature sous le ciel. Et maintenant, ne faut-il pas que tous reçoivent la grâce, et croient en la lumière, et reçoivent cet évangile, et y marchent et y travaillent, tant hommes que femmes, fils et filles, vieux et jeunes, serviteurs et servantes. Oui, je dis, l'évangile étant prêché à toutes les nations, et à toute créature sous le ciel, vieillards et jeunes gens, serviteurs et servantes, fils et filles, je dis donc, ne faut-il pas que tous ceux-ci reçoivent cet évangile, ainsi que la lumière et la grâce, et ne doivent-ils pas tous y marcher? Et offrir leur sacrifice spirituel sur l'autel céleste, dans la nouvelle alliance, et marcher dans la voie nouvelle et vivante, et tous recevoir la lumière de Christ, qui éclaire tous, et devenir enfants de lumière, et sentir le sang de Christ les purifier de tout péché qu'ils ont dans le vieil Adam. Ainsi de même que les femmes devaient offrir, dans l'ancienne alliance et au temps de la loi, sur l'autel extérieur, leurs offrandes, et que Dieu répandit son esprit sur la maison d'Israël afin qu'ils comprennent et fassent ce qu'il leur commandait, en ce temps-là, elles avaient les assemblées des femmes, qui n'étaient pas interdites. Ainsi maintenant, au temps de l'Évangile et au jour de Christ, qui éclaire tous, et au temps de sa grâce, qui est apparue à tous les hommes pour les instruire et apporter leur salut, et au temps où son évangile est prêché à toute créature, et au temps où il répand son esprit sur toute chair, afin qu'ils comprennent, marchent et vivent dans son évangile, et qu'ils offrent par son esprit leur sacrifice spirituel. Ainsi, en ce temps et ce jour de Christ, le capitaine de notre salut, ne faut-il pas que tous ceux-ci travaillent dans l'évangile, dans la parole, dans la grâce et dans la lumière, et qu'ils connaissent et accomplissent l'œuvre et le service de Dieu et de Christ au sujet de son tabernacle et de son sanctuaire céleste? Chacun n'a-t-il pas son service, lui qui est éclairé? Et sa grâce, qui leur est apparue, n'en sont-ils pas les intendants, et ne doivent-ils pas avoir leurs assemblées de femmes au temps de l'Évangile et de la Nouvelle Alliance, et au temps de la grâce, de la lumière et de la vie, tout autant qu'au temps de la loi et de l'Ancienne Alliance? Et ne doivent-ils pas tous travailler à ce qui tend à la gloire, à la louange et à l'honneur de Dieu? C'est pour cette fin qu'il les a tous créés, et pour cette fin qu'il les a rachetés, convertis, transférés et sanctifiés, pour faire de des vases d'honneur, de sa grâce et de ses miséricordes. Et ainsi maintenant, la fin de toutes nos réunions d'hommes et de femmes au temps de l'Évangile, la puissance de Christ en étant l'autorité, est qu'ils puissent tous travailler dans sa puissance, dans sa grâce, dans son esprit et dans sa lumière, pour faire son service et son œuvre en vérité et en justice. Ainsi les femmes, au temps de l'Évangile, de la lumière et de la grâce, doivent regarder en elles-mêmes et dans leur famille, et veiller à l'éducation de leurs enfants, car elles sont souvent davantage avec eux que les hommes, et peuvent prévenir bien des choses qui pourraient arriver, et bien souvent elles peuvent faire ou défaire leurs enfants dans leur éducation. Non, elles en viennent à être exercées dans la grâce de Dieu, et à admonester, exhorter, reprendre et réprimander, et à tenir toute leur famille dans la modestie, l'honnêteté, la vertu, la sobriété et la civilité, et à ne pas donner de liberté ni encourager ce qui tend au vice, à la lubricité, à quelque mal que ce soit, à l'oisiveté ou à la paresse, ni aux maux du monde qui passe, et à arrêter toute parole vaine, les bavardages oisifs, les histoires et les contes qui sont sans profit, mais plutôt à tourner leurs oreilles vers la paix. Et si des hommes ou des femmes permettent de telles choses, ils permettent ce qui souille leurs enfants et leurs familles. C'est pourquoi ces choses doivent être reprises dans les familles, et il faut empêcher leurs enfants de s'y engager. Et par conséquent, ils doivent estimer la vérité et la vertu au-dessus de toutes ces choses, et ne pas tolérer de telles choses qui détournent leurs esprits de la vertu vers le vice. Or, lorsque les femmes sont réunies dans la lumière et dans l'Évangile, la puissance de Dieu, certaines ont une capacité et une intelligence plus grandes que d'autres femmes, et sont capables d'informer, d'instruire et de stimuler les autres à la diligence, à la vertu, à la justice, à la piété, et dans l'amour et la sagesse de Dieu, d'informer et de réformer leur famille, et d'aider celles qui ont des capacités et une intelligence plus faibles dans la sagesse de Dieu, afin qu'elles soient fécondes en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Afin qu'elles puissent voir que toutes leurs familles sont ordonnées à la gloire de Dieu, et que ce qui tend au relâchement ou au mal, soit en parole, en manière ou en action, et qui les corromprait, soit dans leur vie, soit dans leur mœurs, soit réprimé et repris. Afin que tous leurs enfants et serviteurs soient formés dans la crainte de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, car chez les Juifs dans l'Ancienne Alliance, ceux qui séjournaient parmi eux devaient garder le sabbat, et s'ils mangeaient de leurs sacrifices, ils devaient être circoncis. Et les femmes avaient leurs assemblées au jour des juges et des rois, et les fils du vieux Élie abusèrent d'elles, et le vieux Élie admonesta ses fils, mais il ne les retint pas dans leur méchanceté. C'est pourquoi Dieu retrancha ses fils, et il perdit l'arche de Dieu, et le sacerdoce, et sa propre vie aussi. Ainsi, beaucoup d'entre vous peuvent admonester leurs enfants, mais si vous ne les retenez pas avec l'aide de l'Esprit de Dieu, que Dieu vous a donné, vous éteindrez l'Esprit de Dieu en vous, en les indulgentant, et ainsi vous perdrez votre offrande spirituelle et votre sacerdoce en cela, et prenez garde de ne pas perdre vos propres vies, ainsi que celles de vos enfants, ayez donc le vieux Élie pour exemple. Or le vieux Élie n'était pas contre les assemblées des femmes, qui s'assemblaient par troupes, comme, dans la marge de la Bible, vous pouvez le voir en 1 Sam 2, 22-23. Certains hommes puissent être contre les réunions ou assemblées de femmes au temps de l'Évangile, et contre la parole ou la prophétie des femmes. Ils sont ignorants de l'Esprit universel, ainsi que de leur service, de leur travail pour Dieu, dans sa grâce et son Évangile, et ils sont d'un esprit étroit, et ne sont pas eux-mêmes les véritables serviteurs de Dieu, car s'ils l'étaient, ils voudraient que tous les peuples servent Dieu dans sa puissance, et qu'ils gardent la vraie religion, qui consiste à visiter les orphelins et les veuves, et à se garder des sous. Et certains ont été d'avis que les femmes ne devaient pas se réunir sans les hommes, et certains d'entre eux disent que les femmes ne doivent pas parler dans l'Église, et si elles ne doivent pas parler, pourquoi donc se réunir avec elles? Mais quel est cet esprit qui voudrait exercer une domination sur la foi de qui que ce soit? Et quel est cet esprit qui ne permettrait ni aux femmes de parler parmi les hommes, ni de se réunir entre elles pour parler? Mais tout cela est destiné au jugement, avec cet esprit qui donne la liberté à tous ceux qui travaillent dans l'Évangile, dans la lumière et dans la grâce. Et il y a des hommes et des femmes qui suggèrent que, si les femmes se réunissaient entre elles dans l'ordre de l'Évangile, la puissance de Dieu, elle deviendrait trop hautaine. Mais ces hommes et ces femmes qui suggèrent cela sont déjà trop hautains, et voudraient dominer sur les biens des hommes et des femmes, et dissiper les leurs propres. Car s'ils étaient dans la puissance et l'Esprit de Dieu, ils n'auraient pas à craindre que quiconque prenne le dessus sur eux. Car la puissance et l'Esprit de Dieu donnent la liberté à tous, car les femmes sont héritières de la vie autant que les hommes, et héritières de la grâce et de la lumière de Christ Jésus autant que les hommes, et ainsi intendantes de la grâce multiple de Dieu. Et elles doivent toutes rendre compte de leur intendance, et doivent être possesseurs de la vie, de la lumière, de la grâce et de l'Évangile de Christ, et y travailler, et garder leur liberté et leur franchise en lui, tout autant que les hommes. Et elles sont croyantes dans la lumière, tout autant que les hommes, et ainsi enfants de la lumière et du jour, tout autant que les hommes. Et ainsi les assemblées des femmes, sur lesquelles Dieu a répandu son esprit, doivent exister au temps de l'Évangile, tout autant qu'au temps de la loi, afin qu'elles puissent être des aides aux hommes au temps de l'Évangile, dans la restauration, comme elles l'étaient au commencement et au temps de la loi. Ainsi toutes les femmes, dans toutes leurs assemblées au temps de l'Évangile et de la nouvelle alliance de lumière, de vie et de grâce doivent être encouragées, comme elles l'étaient au temps de la loi, et être stimulées dans la sagesse de Dieu à la diligence et au service de Dieu et de Christ, dans sa nouvelle alliance, au temps de son Évangile, pour faire l'œuvre du Seigneur concernant le tabernacle céleste et les vêtements célestes, comme les femmes s'occupaient de la figure au temps de la loi. Et maintenant, vous qui trébuchez à cause des réunions de femmes, vos femmes n'avaient-elles pas beaucoup de réunions vaines avant d'être convaincues, et vous ne vous en offensiez pas alors, lorsqu'elles se réunissaient pour satisfaire la chair, et avaient pour elles-mêmes des réunions de plaisir et d'excursion, les repreniez-vous pour de telles réunions? Et pourquoi ne devraient-elles pas maintenant se réunir dans leur conversion, dans la puissance et l'Esprit du Seigneur, pour faire son œuvre, et visiter les orphelins et les veuves, et se garder des souillures du monde, ce qui est la pratique de la religion pure, où les hommes et les femmes peuvent être des aides dans la religion qui n'est pas du monde, celle qui préserve des souillures du monde. Mais certains ont dit que de telles réunions ne doivent pas avoir lieu, sauf selon les besoins des affaires ou les occasions. C'est comme si l'on disait, « Vous ne devez pas faire de haies avant que les bêtes aient dévoré votre blé », puis les responsables de la paroisse doivent se réunir pour évaluer le dommage. Et ici leur sagesse se voit, comme s'il n'était pas davantage leur devoir de se réunir pour prévenir les mauvaises actions qui pourraient survenir, et par la puissance de Dieu, boucher les brèches pour prévenir le mal ou les points faibles, car lorsque le mal est entré, il est trop tard de se réunir alors, ce qui apporte plutôt le scandale que le remède. Et par conséquent, les travailleurs de l'Évangile, hommes et femmes étant des aides l'un pour l'autre, doivent veiller à ce que tous marchent et vivent dans l'ordre de l'Évangile, et à ce que rien ne manque. Car les femmes, dans leurs assemblées, peuvent s'informer les unes les autres des pauvres veuves et des orphelins, et dans la sagesse de Dieu, trouver le meilleur moyen d'établir leurs enfants, et veiller à ce que leurs enfants soient préservés dans la vérité, et les instruire dans la crainte du Seigneur. Et vous pouvez voir le soin d'Abraham au sujet d'Isaac prenant sa femme, et le soin de Sarah, que le fils de la servante ne soit pas héritier avec son fils, et comment il envoya son serviteur, qui parla aux parents avant de parler à Rebecca, la fille, concernant le message de son maître Abraham, et ils confessèrent que cela procédait du Seigneur, comme en Genèse 24, 33-51. Et vous pouvez aussi voir le soin de Rebecca concernant Jacob, qui dit « Si Jacob prend une femme parmi les filles de Rès, à quoi me servira la vie ?» Et ici vous pouvez voir qu'Isaac et Rebecca étaient des aides l'un pour l'autre, et Isaac ne dit pas « Tais-toi, femme insensée !» Car Isaac exhorta Jacob et lui enjoignit de ne pas prendre femme parmi les filles de Canaan, comme vous pouvez le voir en Genèse 28:1. Et lorsque Rebecca était enceinte, les enfants se heurtaient dans son ventre, et elle dit « Si c'est ainsi, pourquoi suis-je ainsi ?» Et elle alla vers le Seigneur pour s'enquérir, et le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux sortes de peuples, et l'aîné servira le plus jeune, comme en Genèse 25-23. » Ainsi vous pouvez voir qu'elle recourut au Seigneur, sans qui auprès du Seigneur, et qu'il l'entendit et lui parla, et qu'elle entendit la voix du Seigneur. Elle est un exemple pour toutes les femmes dans cette condition, pour demander conseil au Seigneur comme elle le fit. Et lorsque Sarah dit à Abraham, « Chasse la servante et son fils, » car le fils de la servante ne sera pas héritier avec mon fils Isaac, cette chose fut cependant pénible aux yeux d'Abraham, à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne soit pas pénible à tes yeux à cause du jeune garçon et à cause de la servante, en tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car c'est en Isaac que ta descendance sera appelée. Ici vous pouvez voir que Dieu justifia la parole de cette femme honorable, et que son mari Abraham fit selon ses paroles, comme en Genèse 21:9-14. Car l'Église était alors dans la maison d'Abraham, et ainsi Sarah parla dans l'Église. et vous pouvez voir le conseil de Rebecca à Jacob et comment elle instruisit son fils au chapitre 27, 43-45. Et de même, vous pouvez voir le conseil de Rachel et de Léa à Jacob, qui répondirent à Jacob et lui dirent « Y a-t-il encore pour nous une part ou un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas comptés par lui comme des étrangères ? Car il nous a vendus et a aussi entièrement dévoré notre argent, car toutes les richesses que Dieu a prises à notre père sont à nous et à nos enfants, et maintenant donc tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. » Tel fut le conseil de Rachel et de Léa à Jacob. Et ces trois-là n'étaient-ils pas alors une église, et leur interdit-il de parler dans l'église ? Voyez Gênesis 31, 14, 16. Et en Exode 1, vous pouvez voir les sages-femmes, qui craignaient Dieu, elles n'obéirent pas au commandement du roi Pharaon visant à faire mourir les enfants mâles, mais les laissèrent vivre. Et après cela, le roi d'Égypte fit venir les sages-femmes, et leur demanda pourquoi elles avaient agi ainsi en sauvant les enfants mâles. Pourtant ces sages-femmes, après qu'il les eut ainsi interrogées et eut réitéré son ordre, désobéirent encore à son commandement et ne cédèrent pas à son décret persécuteur et meurtrier. C'est pourquoi il est dit que Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignaient Dieu, qu'il leur fit des maisons. Et ici, vous pouvez voir que le Seigneur prit soin de ces femmes honorables qui le craignaient. Et pensez-vous que ces femmes honorables ne se réunissaient pas souvent ensemble et ne délibéraient pas ensemble afin de se tenir unies et de consacrer leurs propres vies et leurs biens pour préserver la vie de ces enfants mâles? Ne diriez-vous pas, si cela arrivait de votre temps, que c'était des femmes hardies que de répondre ainsi au roi, et de désobéir ainsi au commandement du roi, comme en Exode 1:16-20. Et après que les enfants d'Israël furent sortis d'Égypte, et virent la destruction de Pharaon et de son armée, après que Moïse eut achevé son cantique et ses louanges au Seigneur, alors Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin à la main, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et des danses remarquées, toutes les femmes, et Myriam leur répondit et dit, « Chantez au Seigneur, car il a triomphé glorieusement, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Or, ici vous pouvez voir quelle assemblée il y avait de femmes qui louaient le Seigneur, instruites par Myriam la prophétesse, et Moïse et Aaron ne s'en offensèrent point, car ils étaient sensibles à leur joie et participaient à la délivrance et au salut, les femmes aussi bien que les hommes, comme vous pouvez le voir en Exode 15, 20-21. Et Déborah, prophétesse, jugea Israël, et envoya chercher Barak, l'exhorta, l'encouragea, et elle lui prophétisa qu'il n'aurait pas la gloire de la bataille, mais que le Seigneur livrerait Sisra entre les mains d'une femme, comme vous pouvez le voir au chapitre 4 des Juges. Puis Déborah chanta et loua le Seigneur, et là vous pouvez voir sa grande déclaration, louant et magnifiant le nom du Seigneur tout au long du chapitre, et comment elle dit, « Bénie soit Yaël au-dessus de toutes les femmes, la femme de Hébé, bénie soit-elle dans la tente. » Et nous ne lisons pas que les anciens la reprirent, ni qu'ils lui dirent de cesser son bavardage, car elle était remplie de la puissance du Seigneur pour louer son nom. Juges 5, et vous pouvez voir comment l'apôtre a mis en avant les femmes honorables, et leur fidélité et leur constance, Hébreux 11, 35, qui par la foi reçurent leur mort ressuscités à la vie. Rois 17, 23, 2 Rois 4, 36 et Anne, qui priait dans le temple devant Élie, comme il a été dit plus haut, lui qui ignorait son état, la reprit et pensa qu'elle était ivre, mais elle le convainquit. De sorte qu'enfin il l'encouragea et demanda au Seigneur de lui accorder sa requête, et lorsque le Seigneur la lui eut accordée, vous pouvez voir comment cette femme honorable exalte le Seigneur, 1 Sam 2, 1 10 Ruth et Naomi, vous pouvez voir quelles femmes vertueuses elles étaient, et comment les femmes bénirent le Seigneur. Et Hulda la prophétesse, qui demeurait à Jérusalem, dans le collège, vers laquelle le roi envoya le prêtre Hilkia, et son scribe, et d'autres pour l'interroger. Or ici les Juifs ne méprisèrent pas de s'entretenir avec une femme. Et elle instruisit le prêtre et le scribe du roi, venu à elle. Ainsi ni le roi ni le prêtre ne méprisèrent l'enseignement et l'instruction de cette prophétesse, mais y obéirent, comme vous pouvez voir quel long sermon elle leur prêcha, en 2 Rois 22, du verset 14 jusqu'à la fin. Et vous pouvez voir, en Abigaïl, la sagesse de cette femme honorable, comment elle sauva sa famille et sa maison de la destruction. Pourtant elle n'alla pas demander à son mari, le vieux rustre Nabal, à la maison, mais elle, qui était innocente et sage, prit cela sur elle-même. Et vous pouvez voir quel noble sermon elle prêcha à David, qui l'écouta patiemment, et elle dit à David qu'il était lié dans le faisceau de la vie avec le Seigneur Dieu. Et David bénit le Seigneur Dieu de ce qu'elle était venue à lui, et dit que le Seigneur Dieu d'Israël l'avait envoyé ce jour-là à sa rencontre, et il dit, « Béni soit ton conseil, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de répandre le sang, comme vous pouvez le lire en 1 Sam 25, 18-35. » Et n'était-ce pas là un acte noble et honorable de cette femme, qui empêcha tant de mal et d'effusion de sang, que son mari avait failli faire retomber sur eux? Ainsi David ne méprisa pas le conseil de cette femme honorable, plus sage que son mari Nabal. Et maintenant, les vierges, au temps de l'Évangile, ne doivent-elles pas arranger leurs lampes et mettre de l'huile dans leurs propres lampes, en travaillant dans la grâce, la lumière et la puissance du Christ, et tenir leurs lampes arrangées et toujours allumées? Au temps de la loi, c'était l'office d'Aaron le prêtre, mais au temps de l'Évangile, tous les esprits vierges doivent arranger leurs propres lampes, afin qu'elles brûlent plus clairement, et veiller à avoir de l'huile dans leurs lampes provenant de l'olivier céleste Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ceux qui ne veulent pas que les vierges et les femmes soient diligentes, servant le Seigneur dans son œuvre et son service céleste, leurs lampes s'éteignent, ils sont devenus insensés, et voudraient que les autres soient comme eux. Et le Seigneur envoya Élie au temps de la famine et lui dit, « Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta, et lorsqu'il arriva à la porte de la ville, la veuve ramassait du bois pour faire du feu, afin de cuire un gâteau. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche, et pourtant dans la foi elle fit au homme de Dieu un gâteau, bien qu'elle n'eût que cela, afin qu'elle et son fils mangent puis meurent. Mais sa farine ne diminua pas et sa cruche d'huile ne manqua point, selon la parole du Seigneur. Et ainsi le Seigneur bénit cette femme, comme vous pouvez le voir en 1 Roi 17, 9, 16. Et dans 2 Rois, chapitre 4, vous pouvez voir la foi de la veuve, et combien largement elle s'adressa au prophète Élisée, et comment le Seigneur augmenta sa provision d'huile par sa croyance et sa fidélité. Et Élisée passa à Sunem, où il y avait une grande femme, et elle le contrait à manger du pain, et ainsi toutes les fois qu'il passait, il y entrait pour manger du pain, et elle dit à son mari, « Voici maintenant je vois que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours près de nous, faisons-lui je te prie une petite chambre sur le mur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, et il arrivera que lorsqu'il viendra chez nous, il s'y retirera. » Or son mari se soumit à cette bonne action de cette sainte femme, et comment elle fut bénie ensuite pour sa fidélité et pour avoir acquis l'homme de Dieu. Or, le prophète ni le Seigneur ne méprisèrent pas la parole de cette femme, au temps de la loi. Salomon non plus ne méprisa pas la prophétie que sa mère lui enseigna. Prov 31 Et David dit, « Le Seigneur a donné la parole, et grande était la troupe de celle qu'il annonçait. » Psaume 68 On et la fille du roi étaient parmi les femmes honorables. Ainsi, il y avait des femmes honorables, qui craignaient et servaient le Seigneur Dieu, au temps de la loi et avant la loi. Mais il devrait y en avoir bien davantage au temps de l'Évangile, qui est prêché à toute créature. Cette lumière de l'Évangile a éclairé tout homme venant dans le monde, et au temps de l'Alliance de grâce, qui est apparue à tous les hommes pour les instruire et leur apporter le salut. Ainsi, au temps de l'Évangile, de la lumière et de la grâce, les femmes honorables devraient être des aides et des collaboratrices dans l'œuvre et le service du Seigneur, comme l'homme et la femme l'étaient avant leur chute, et comme ils l'étaient au temps de la loi. Car cette honorable Déborah, qui fut une vaillante mère en Israël, était juge et prophétesse. Juge 5 et la fille de Jephté, n'était-ce pas une jeune femme vertueuse? Et voyez quel sermon elle prêcha à son père, lui disant, « Laisse-moi monter dans les montagnes pour pleurer ma virginité. » Et il lui dit, « Va, et elle s'en alla avec ses compagnes, vierge comme elle. » Et elle dit à son père, « Puisque tu as ouvert ta bouche devant le Seigneur, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque le Seigneur t'a vengé de tes ennemis. » Et les filles d'Israël allaient chaque année pleurer la fille de Jephté. Juges 11, 30-31, 34-40 Ainsi, elles avaient ici une réunion annuelle à cette occasion, mais les assemblées des femmes au sujet des œuvres et des services que le Seigneur commandait allaient au-delà de cela. Et à la mère de Samson, la femme de Manne, l'ange du Seigneur apparut et lui déclara de grandes choses, qu'elle rapporta à son mari, mais son mari ne la réprimanda pas. Et lorsque son mari eut peur qu'il mourût, sa femme l'encouragea en disant, « Si le Seigneur avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas reçu un holocauste, ni ne nous aurait montré toutes ces choses. » Et ici vous pouvez voir la fermeté de la foi de cette femme, supérieure à celle de son mari, comme en Juge 13. Et la femme de Tekoa, voyez quel sermon elle prêcha au roi David. 2 Sam 14, et vous pouvez voir quel long sermon la femme de la ville d'Abel prêcha à Joab le général. Elle lui dit qu'elle était de ceux qui étaient pacifiques et fidèles en Israël. « Et toi, tu cherches à détruire une ville et une mère en Israël, pourquoi veux-tu engloutir l'héritage du Seigneur ?» Ainsi elle le convainquit et préserva la ville. Ainsi ces femmes, et d'autres semblables, sont rapportées à la postérité pour leur sagesse, leur vertu, leur zèle et leur foi, comme vous pouvez le voir au chapitre 20 de 2 Samuel, verset 16-22. Et que pensez-vous d'Esther ? Lisez son livre, et voyez la conduite de cette femme vertueuse et honorable qui, par sa sagesse, sa foi et sa vertu, préserva son peuple Israël. Elle leur fut une mère nourricière. Comme vous pouvez le lire dans le livre d'Esther, elle observa un jeûne avec ses servantes devant le Seigneur, et demanda aussi à Mardoché de jeûner à Suse, en Esther 4:16. Or vous toutes, femmes négligentes, qui êtes hors du service de Dieu et pensez n'avoir nul besoin d'être dans le service et l'œuvre du Seigneur, écoutez la parole du Seigneur, ce qu'Ésaïe dit à de telles personnes. Levez-vous, femmes qui êtes à l'aise, écoutez ma voix, filles insouciantes, prêtez l'oreille à mes paroles, dans bien des jours et des années vous serez troublées, femmes insouciantes, car la vendange manquera, et la récolte ne viendra pas. Vous ne pouvez non plus l'attendre dans votre haie et votre insouciance, vous qui négligez la voix et la parole de Dieu et n'êtes pas diligente, votre vendange céleste tombera, et vous en recueillerez peu. Tremblez, femmes qui êtes à l'aise, soyez troublées, insouciantes, dépouillez-vous, mettez-vous à nu, saignez un sac sur vos reins, etc. Ésaïe 32, 9, 11. C'est pourquoi, ôtez ce vêtement d'insouciance, secouez la paresse, et revêtez la diligence dans le service de Dieu. Or, les Juifs avaient leurs assemblées de femmes pleureuses, et c'est pourquoi le prophète appelle les femmes pleureuses, et qu'elles pleurent, dit-il, lorsque les Juifs tombèrent dans la transgression. Et cela parce que les hommes et les femmes n'étaient pas diligents dans son service, dans la puissance et l'Esprit de Dieu, qu'il avait répandu sur eux. Et Jérémie dit, « Écoutez la parole du Seigneur, ô femmes, que vos oreilles reçoivent la parole de sa bouche, enseignez à vos filles les gémissements, et chacune à sa voisine les lamentations. » Jer 9, 20. Ainsi, ici le prophète exhorte les femmes à entendre d'abord la parole de Dieu, puis à instruire et exhorter leurs filles et leurs voisines, oui, aux gémissements et aux lamentations. Et ne doivent-elles pas, et ne devaient-elles pas, instruire leurs familles et leurs voisins par la parole du Seigneur, tant au temps de la loi qu'à celui de l'Évangile, afin de prévenir les gémissements et les lamentations. Et voyez dans Ézéchiel comment il exhortait, et ce que le Seigneur y dit, « Je ferai cesser la débauche du pays, afin que toutes les femmes soient instruites à ne pas agir selon leur débauche. Et ensuite, lorsqu'elles obéiront à cet enseignement, elles éviteront les jugements qui vinrent sur les Juifs, lesquels furent comparés à des femmes, comme en Ésaïe 23. Et les assemblées de femmes se maintinrent parmi les Juifs jusqu'à leur captivité. Et lorsque Saül et David eurent fait un grand carnage parmi les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, remarquez, de toutes les villes d'Israël, et assurément c'était une grande assemblée de femmes en chantant et en dansant, avec joie et avec des instruments de musique, et les femmes se répondaient l'une à l'autre en jouant, et chantaient des louanges à Dieu. Et Saül le roi ne se mit pas en colère contre les femmes, mais contre David parce qu'elles lui attribuaient tant d'honneur, car elles participaient au salut du Seigneur et à la délivrance autant que les hommes, Issam 18, 6, 9. Ainsi elles participent aussi, dans l'Évangile, à la délivrance sur le diable, le grand ennemi du genre humain, et on les exhorte à louer le Seigneur et à faire mélodie dans leur cœur pour le Seigneur, pour leur salut et leur délivrance par le Christ, autant de l'Évangile, autant que les hommes. 1 Sam 18, 6 et en 2 Chron 35, 25, Jérémie se lamenta sur Josia, et tous les chanteurs et toutes les chanteuses parlèrent de Josia dans leur lamentation. Ainsi, ici il n'y avait pas seulement des chanteurs, mais aussi des chanteuses qui non seulement chantaient, mais se lamentaient pour ce bon homme Josia. Et au jour d'Esdra, après le retour des Juifs de leur captivité dans leur pays, il y avait 200 chanteurs et chanteuses. Esdra 2, 65 et en Esed 67, où le prêtre se tenait debout avec l'Urim et le Sumim, c'est-à-dire la lumière et la perfection, ils avaient 245 chanteurs et chanteuses. Ainsi ceux-ci furent encouragés par les prêtres, selon l'ordre de David et de Salomon, et ceux-ci étaient en plus des assemblées de femmes au sujet des œuvres et des services dans les choses saintes, car ceux-ci chantaient des louanges à Dieu. Et en Sof 3, 14, 15, il dit, « Chante, fille de Sion, pousse des cris et réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem, le Seigneur a ôté tes jugements, le Seigneur est au milieu de toi, tu ne verras plus le mal. » Et en Zac 2, 10, il les encourage à chanter et se réjouir aux filles de Sion, « Car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit le Seigneur. » Ainsi, il y a grande cause pour la fille de Sion de se réjouir, et qui lui fermera la bouche. Et en Luc 1, 38, vous pouvez voir comment l'ange du Seigneur apparut à Marie, la mère de Jésus, et ce qu'il lui dit, et quel noble esprit vertueux était en elle, et elle dit à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et ainsi sa foi surpassait celle de Zacharie le prêtre. » Et lorsque Marie vint auprès d'Élisabeth, quelle rencontre et quelle salutation ce fut, et comment elle fut remplie du Saint-Esprit, et l'enfant tressaillit dans son sein, et elle loua le Seigneur Dieu, et l'appela la mère du Seigneur. Lisez du 40 au 55 verset, et voyez comment elle exalte le Seigneur et magnifie Jésus-Christ, car ce fut une rencontre céleste de ces deux femmes, consignée pour les siècles. Ainsi vous pouvez voir que sa foi était supérieure à celle de Zacharie le prêtre. Ainsi Marie et Élisabeth furent des prédicatrices remarquables de Jésus-Christ. Et vous pouvez voir en Luc 2, 7 comment Marie emmaillota le Christ, et combien elle fut tendre à l'égard de cette naissance céleste, conçue par le Saint-Esprit. Et ainsi doivent faire tous les vrais chrétiens au cœur tendre qui le reçoivent dans l'Esprit, et comment elle gardait toutes les paroles dites au sujet du Christ et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Et ainsi devrait faire tout vrai chrétien. Et il y avait Anne, une prophétesse âgée de 84 ans, qui ne quittait pas le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour, et elle rendait grâce au Seigneur, et parlait du Christ à tous ceux qui attendaient la rédemption en Israël. Voici une femme âgée remarquable de 84 ans, prédicatrice et annonciatrice du Christ. Et vous ne lisez pas que jamais quelqu'un l'ait méprisée, ou ait dit qu'il était interdit à une femme de parler dans l'Église. Mais cette femme est donnée en exemple à toutes les femmes, jeunes et âgées, pour son amour envers le Christ son Sauveur, et non seulement cela, mais comme prédicatrice de lui auprès de tous ceux qui attendaient la rédemption en Israël. Et la femme cananéenne qui vint à Jésus et dit, « Seigneur, secours-moi !» Mais il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle dit, « Oui, Seigneur, cependant les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit et dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Ainsi vous pouvez voir que, par la foi de cette femme en Jésus-Christ, la fille de cette femme fut guérie, ce qui est un exemple pour tous les fidèles, afin de regarder à Jésus pour être secouru, comme vous pouvez le voir en Matthieu 15, 22-28. Et Marie qui prit une livre de parfum de nard pur très précieux, et oignit les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais lorsque Judas vit cela, il s'indigna en disant, « À quoi bon ce gaspillage? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent et ne les a-t-on pas données aux pauvres ?» Comme vous pouvez le voir en Matthieu 26 et Marc 14 et Jean 12, or c'était Judas, celui qui portait la bourse et qui trahit le Christ, et nombreux sont ceux qui portent la bourse aujourd'hui, qui ne voudraient pas que leurs femmes ni les femmes dépensent quoi que ce soit pour le Christ ni pour ses pauvres disciples. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi la tourmentez-vous ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours, elle a fait ce qu'elle a pu, elle est venue d'avance oindre mon corps pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Ainsi le Christ n'interdit pas la pratique de la femme, mais l'encouragea, et il encourage encore ainsi ceux qui lui obéissent. Et la femme qui souffrait depuis 12 ans d'une perte de sang, qui avait tout dépensé chez les médecins et allait de mal en pis, sa foi était si forte qu'elle croyait que, si seulement elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Et dès qu'elle eut touché ses vêtements, une force sortit du Christ et la guérit. Puis la femme vint, craintive et tremblante, se jeta aux pieds du Christ et lui dit toute la vérité, ce qu'elle avait fait, et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Marc 5. Or le Christ, qui est la tête de l'Église, permit ici à une femme de parler devant lui, elle qui avait reçu de lui cette vertu guérissante. Et vous pouvez voir, lorsque le Christ fut crucifié, combien de femmes étaient là, comme Marie-Madeleine, et Marie la mère de Jacques, et beaucoup d'autres qui étaient montées à Jérusalem, qui étaient auprès de Jésus au moment de sa crucifixion, comme en Marc 15, 40-41. Et Marie-Madeleine et Marie la mère de Jacques vinrent au sépulcre, et l'ange leur dit, « Ne craignez point, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites-le à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Car Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, comme en Marc 16, 1-7. Et en Jean 20, 13-17, il est dit que les deux anges dirent à Marie, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Et ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Mais Jésus lui dit, « Marie, » et elle se retourna et lui dit, « Rabbi, c'est-à-dire maître. » Et Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie-Madeleine vint dire aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ainsi, ici Marie-Madeleine fut une messagère de Jésus-Christ, qui ne méprisa pas sa parole devant lui, lui qui est la tête de l'Église, et il ne refusa pas de l'envoyer prêcher sa résurrection à ses disciples, bien qu'elle fût une femme. Et en Luc 24, 1-11, il est dit que c'était Marie-Madeleine, et Jeanne, et Marie la mère de Jacques, et d'autres femmes qui étaient avec elle, qui dirent aux apôtres que le Christ était ressuscité, et on leur dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée, disant, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains d'hommes pécheurs. » Et ils se souvinrent de ses paroles, et ils revinrent du sépulcre et rapportèrent toutes ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. Et remarquez, comme je l'ai dit plus haut, c'était Marie-Madeleine, et Jeanne, et Marie la mère de Jacques, et d'autres femmes qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres, et ces paroles leur semblèrent des racontars, et ils ne les crurent point. Or remarquez leur message, ce qu'il était, à qui ils s'adressaient, et qui étaient les messagers, les vases plus faibles, et à qui, aux apôtres, et ce qu'ils prêchaient, c'était ce dont ils se souvenaient que le Christ leur avait dit auparavant, à savoir précisément que le Christ devait souffrir et ressusciter. Et le Christ apparut encore à deux de ses disciples, il parla avec eux et demanda, « De quoi parliez-vous ? » Et ils lui dirent, « Es-tu le seul étranger à Jérusalem pour ne pas savoir ce qui s'y est passé ?» Et il leur dit, « Quoi donc ?» Et ils lui dirent, « Au sujet de Jésus de Nazareth, qui fut un grand prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, que les Juifs ont crucifié, mais nous espérions qu'il aurait racheté Israël, et en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. » Et certaines femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles étaient de grand matin à son sépulcre, et ne trouvant pas son corps, elles sont revenues disant qu'elles avaient vu une vision d'ange qui disait qu'il était vivant. Ainsi ici, le témoignage des femmes au sujet de la résurrection du Christ les étonna. Et Jésus leur dit, « Ô insensés, et lents de cœur à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et entrât dans sa gloire ? » Or ici vous pouvez voir que c'était Marie, et Jeanne, et Marie la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle, qui annoncèrent la résurrection du Christ aux onze, ce qui ne parut aux apôtres que comme des racontars. Et ce fut là une réunion joyeuse de femmes, de messagères et de prédicatrices de la résurrection du Christ, consignées pour la postérité à leur gloire, afin que tous croient, bien que leur message et leurs paroles aient semblé des racontars aux disciples. Mais elles furent reconnues par le Christ, tête de l'Église, comme il a été dit. Bien que leur prédication ait été dédaignée par les apôtres et tenue pour des racontars, toutefois, ils finirent par croire ensuite, comme en Luc 24, 11. Et la femme de Samarie, que Jésus-Christ convainquit et à qui il enseigna comment Dieu devait être adoré, c'est-à-dire en esprit et en vérité, vous pouvez voir quel long entretien le Christ eut avec elle, comme en Jean 4, 7, 26, et il lui permit de parler devant la tête de l'Église. Et les disciples du Christ s'étonnèrent qu'il parlât avec une femme, et la femme laissa sa cruche d'eau, s'en alla dans une ville de Samarie, et dit aux hommes de la ville, « Remarquez, aux hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Et beaucoup de Samaritains crurent à cause de la parole de la femme, qui témoignait, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et lorsqu'ils entendirent le Christ, ils dirent à la femme, « Maintenant nous croyons, non pas seulement à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Ainsi, ici vous pouvez voir qu'il y eut une femme prédicatrice que le Christ, tête de l'Église, permit, et par son moyen, beaucoup furent convertis au Christ. Et lorsqu'ils eurent crucifié Jésus-Christ, il y avait beaucoup de femmes qui le regardaient de loin, qui l'avaient suivi depuis la Galilée, le servant, parmi lesquelles étaient Marie-Madeleine, et Marie la mère de Jacques et de José, et la mère des fils de Zébédée. Et ici vous pouvez voir qu'il y eut une réunion de femmes avec le Christ dans ses souffrances, et lorsque, ressuscitées, certaines d'entre elles prêchèrent sa résurrection, comme vous pouvez le voir en Matthieu 27, 61 et au chapitre 28, 10, où vous pouvez lire le message que le Christ donna aux femmes pour le déclarer aux apôtres, comme il a été dit, lequel est rapporté et exposé afin que d'autres croient leur message. Et lorsque le Christ reprit les Juifs, il dit, « En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élisée, mais Élisée ne fut envoyée vers aucune d'elles, sinon à Sarepta, ville de Sidon, vers une femme qui était veuve. Et les Juifs se levèrent et chassèrent le Christ de leur ville, remplis de colère contre lui à cause de cette parole et de ses reproches. Et vous pouvez lire en détail les actes, les faits et les paroles de cette femme fidèle, en 1 Roi 17, 9 et en Luc 4. Et en Luc 7, 36, 50, le Christ se tourna vers la femme et dit à Simon le pharisien, « Non Pierre, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Et tu ne m'as pas donné de baiser, mais cette femme, depuis que je suis entrée dans la maison, n'a pas cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés, qui sont nombreux, sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire, « Qui est celui-ci qui pardonne les péchés ?» Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ainsi, ici vous pouvez voir comment le Christ justifia les actions de la femme au-dessus de celles de Simon, et comment sa foi la sauva, cela est consigné à sa gloire et à l'honneur de Dieu. Et en Matthieu 28, 1, 10, vous pouvez voir cette Marie-Madeleine, qui fut une prédicatrice du Christ, c'était elle de qui le Christ avait chassé sept démons, et avec elle Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, qui servait le Christ de leurs biens. Or, certains avares ne seraient-ils pas prêts à dire que ces femmes vidaient les poches de leurs maris? Et d'autres, avec Judas, qui porte la bourse, pourraient dire « Nous ne devons avoir qu'une seule bourse, et notre don et notre bienfaisance ne suffisent-ils pas ?» Comme en Matthieu 27, 55, 56, Luc 24, 1. Mais cette femme aimait le Christ, et le Christ dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Luc 8, 21, « Et Mandre reçut le Christ dans sa maison ?» Et elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied de Jésus et écouta ses paroles. Mais Mande était distraite par beaucoup de services. Et Jésus lui dit, « Mande, tu t'inquiètes et tu te tourmentes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » C'est le devoir de tout homme et de toute femme de bien, s'ils veulent être préservés des multiples choses. Et vous pouvez voir comment Marie parla avec le Christ, et le Christ avec elle. Ainsi cela est consigné afin que tous choisissent la bonne part et l'unique chose qui ne peut leur être ôtée, et afin d'être préservés des multiples choses qui distraient, comme vous pouvez le voir en Luc 10, 38-42. Et le Christ ne dit-il pas, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Ainsi tout homme et toute femme ne doivent-ils pas connaître ce levain dans leur cœur, s'ils veulent connaître le royaume du Christ, Luc 13, 21. Et la parabole du Christ concernant la femme qui avait perdu sa pièce d'argent, qui alluma une lampe, balaya sa propre maison, et la retrouva dans sa propre maison, et lorsqu'elle l'eut retrouvée, elle se réjouit et le dit à ses voisines. Et toute femme ne doit-elle pas allumer sa propre lampe à la lumière de Jésus-Christ, et balayer sa propre maison par la puissance de Dieu, avant de trouver le trésor de Dieu, et ensuite, de joie de l'avoir trouvé, aller le déclarer à leurs amis et voisins? Et toutes ces femmes qui ont trouvé cela ne prêchent-elles pas le Christ à leurs amis et voisins, et ne les rassemblent-elles pas, car ne leur permettrait-on pas, après avoir perdu un trésor extérieur et l'avoir retrouvé, d'appeler leurs voisins à se réjouir avec elles, ce qu'elles peuvent faire en allumant une chandelle extérieure? Mais leur esprit étant la lampe du Seigneur, celle-ci doit être allumée à la lumière et au feu céleste, par lesquels leur trésor éternel est trouvé, et ne doivent-elles pas alors dire à leurs voisins et amis, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce qui était perdue. » De même, je vous le dis, dit le Christ, il y a de la joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, comme vous pouvez le voir en Luc 15, 8, 10. Or, ici vous pouvez voir que toutes ces femmes renommées et fidèles furent encouragées par le Christ et ses disciples, et elles sont rapportées et mises en avant afin d'encourager tous ceux qui sont fidèles à attendre le Christ, et à allumer leurs lampes à la lumière et au feu de Dieu, afin qu'ils puissent balayer leur maison et trouver leur trésor, et déclarer leur joie à leurs amis et voisins. Et vous pouvez aussi voir que Dorcas était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait, et toutes les veuves se tinrent auprès de Pierre en pleurant, montrant les tuniques et les vêtements que Dorcas avait fait pendant qu'elle était avec elle et à savoir les veuves. Remarquez, et n'y avait-il pas alors une réunion de femmes pendant que Dorcas était avec elle, c'est-à-dire les veuves, et Dorcas était une disciple de Jésus, Actes 9, 36-40. Et Paul, le jour du sabbat, sortit de la ville vers le bord d'une rivière, où l'on faisait des prières, et parla aux femmes qui s'y rendaient, et n'y avait-il pas aussi là une réunion de femmes, qui y allaient pour prier ensemble? Et il y avait une certaine femme nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu, le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu'elle s'attacha à ce que disait Paul, et elle le pria de venir dans sa maison et d'y demeurer, s'il la jugeait fidèle au Seigneur, et elle le contraint, lui et ceux qui étaient avec lui. Actes 16, 14, 15. Ainsi vous pouvez voir la fidélité de cette femme et la pratique des autres femmes avant leur conversion. Et Priscille, qui était une femme fidèle remarquable, que Paul mentionne souvent avec son mari Aquila, et les 4 filles de Philippe, qui étaient prophétesses, qui furent mises en avant pour encourager les autres. Et vous pouvez voir Phébé, par qui l'apôtre Paul envoie ses épîtres aux Romains depuis Corinthe, et qu'il appelle servante de l'église de Sancrée, et il dit, « Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour nous, et Priscille et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Ainsi, ici vous pouvez voir qu'il y avait des femmes qui travaillaient et aidaient dans l'Évangile. Et il dit en outre, « Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est servante de l'Église. » Et il dit, « Priscille et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui pour ma vie ont exposé leur cou, à qui je rends grâce non seulement moi, mais aussi toutes les églises des gentils. » Ainsi, ici vous pouvez voir en quelle estime étaient cet homme et cette femme, et Phébé, et d'autres femmes, pour leur fidélité envers les églises, comme vous pouvez le lire. Rome 16, 1, 4 et l'apôtre dit que le mari incroyant est sanctifié par la femme croyante, autrement leurs enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont purs, et la femme incroyante est sanctifiée par le mari croyant. Ainsi, il y a ici une part égale dans la foi. 1 Corinthiens 7, 14 et l'apôtre dit que toute femme qui priait ou prophétisait la tête non couverte déshonorait sa tête. Ainsi les femmes peuvent prier et prophétiser ici selon l'ordre, dans l'Église tout autant que l'homme. 1 Corinthiens 11, 5, 14, 34, 35. Et pourtant le même apôtre au 14 chapitre interdit à une femme de parler dans l'Église. Et l'apôtre dit que les femmes se taisent dans l'Église, si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais après qu'elles ont appris du Christ, leur mari, à la maison, elles ne sont pas interdites par le Christ de prophétiser ou de prier, mais de bavarder et de se mêler de propos oiseux, insensés et hors de propos dans l'Église. Une telle parole dans l'Église est une honte. Pour plus d'informations sur cette controverse, voyez sa lettre au duc d'Holstein. Or une veuve n'a pas de mari à qui demander sinon le Christ, ni une vierge, pourtant elle peut prophétiser, et une femme croyante qui a un mari incroyant doit le sanctifier, ainsi elle ne doit pas apprendre son salut de lui, mais du Christ et faire son œuvre. Et le même apôtre dit que les hommes se taisent dans l'Église s'ils parlent en langue inconnue et qu'il n'y ait pas d'interprète. Ainsi, ici les hommes doivent se taire dans l'Église dans ce cas, aussi bien que les femmes. 1 Corinthiens 14, 27 et l'apôtre dit encore, « Je ne permets pas à une femme de parler dans l'Église, mais d'être dans l'obéissance, comme le disait aussi la loi. Mais bien que la loi ne permît pas qu'elle s'arroge l'autorité dans l'Église, elle permettait pourtant qu'elle prophétise dans l'Église, au temps de la loi, aussi bien qu'au temps de l'Évangile, comme vous pouvez le voir par ces femmes illustres mentionnées plus haut, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. » Et le même apôtre dit, « Je supplie Évodie, et je supplie Saint-Tiche d'être d'un même sentiment dans le Seigneur, et je te prie aussi, fidèle compagnon, d'aider ces femmes qui ont travaillé avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et avec mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Ainsi, ici l'apôtre pria son compagnon de joug d'aider ces femmes qui avaient travaillé avec lui dans l'Évangile, la puissance de Dieu. Ainsi ces femmes étaient des aides auprès de l'apôtre dans le travail de l'Évangile, la puissance de Dieu, comme vous pouvez le voir dans Phil 4, 2, 3. Et tous ceux qui sont de sa pensée dans le Seigneur encourageront les femmes, les veuves ou les vierges qui ont reçu l'Évangile à y travailler, et tous ceux qui n'ont pas la pensée de l'apôtre dans le Seigneur décourageront le travail des femmes dans l'Évangile et ne prieront pas d'autres de les aider, mais de tels leur donneront liberté de travailler dans la puissance des ténèbres, et dans la paresse et la négligence, ce à quoi est le malheur, et non la bénédiction. Et encore, l'apôtre écrit à Timothée que les femmes se parent d'un vêtement modeste, avec pudeur et sobriété, non avec des cheveux tressés, ou de l'or, ou des perles, ou des habits somptueux, mais de ce qui convient à des femmes qui font profession de piété, par de bonnes œuvres, et que vos femmes apprennent dans le silence en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle apprenne dans le silence, car la femme, ayant été séduite, est tombée la première dans la transgression. Or, qu'une femme prêche ou enseigne, un tel enseignement que celui par lequel Ève enseigna Adam, un tel sermon qu'elle reçut du serpent, qui l'éloigna, elle y a dans son mari de l'enseignement de Dieu, ici dans cet enseignement, elle s'arrogea l'autorité sur l'homme. Et c'est pourquoi Dieu établit l'homme pour dominer sur la femme, mais auparavant ils étaient des aides l'un pour l'autre, tant qu'ils étaient sous l'enseignement de Dieu. Or, s'arroger l'autorité sur l'homme par un tel enseignement, c'est être hors de l'unité, cet enseignement est interdit tant par la loi que par l'Évangile, et elles ne sont pas aptes à enseigner si elles n'ont pas appris la soumission à l'Esprit de Dieu, et ne connaissent pas le silence de toute chair devant le Seigneur, et si elles n'ont pas appris à se parer de ce qui est modeste, et la leçon de sobriété qui convient à la piété, et des bonnes œuvres fruits de l'Esprit. Et de telles femmes, qui ont appris cette leçon, peuvent enseigner et prophétiser, car l'Esprit est répandu sur elles à cette fin. Et le même apôtre dit, 1 Tim 5, 2, « Que les femmes âgées soient comme des mères, et une mère est nourrice, enseignante et instructrice de ses enfants, et les jeunes femmes comme des sœurs, en toute pureté, et des sœurs en Christ et dans la pureté n'ont toutes qu'un seul père, et une sœur est dans l'unité, dans l'Esprit, dans l'Évangile. Et si une femme croyante a des veuves dans sa famille, qu'elle les assiste. » Ainsi ici, c'était l'œuvre de la femme d'assister leur veuve. 1 Tim 5, 6 et encore, l'apôtre écrit à Tite et lui dit, « Dis les choses qui conviennent à la saine doctrine, que les femmes âgées aient une conduite convenable, comme ils cèdent à la sainteté, ni médisantes, ni adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses. Or ici, elles doivent être qualifiées avant de pouvoir être enseignantes de ces bonnes choses. Et que ces femmes âgées enseignent aux jeunes femmes, premièrement à être sobres, deuxièmement à aimer leur mari, troisièmement, à aimer leurs enfants, quatrièmement, à être discrètes, cinquièmement, à être chastes, gardiennes du foyer, bonnes et obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Or ici, ce sont les femmes âgées, non pas une femme, mais les femmes âgées, qui devaient enseigner ces choses aux jeunes femmes. Et comment ces femmes pourraient-elles être enseignantes de toutes ces vertus et bonnes choses si ces mères et saintes femmes ne se réunissaient pas et ne conversaient pas ensemble de sainteté et de vertu, comme dans Tite 2, 3-5. Et dans 1 Pie 3, 1-6, il encouragea les épouses et les femmes. Si leur mari ne se laisse pas gagner par la parole, ils peuvent sans la parole être gagnés par la conduite chaste des épouses. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste, dit-il, jointe à la crainte, et que votre parure, dit-il, ne soit pas celle du dehors, avec les cheveux tressés ou le port de l'or ou la mise d'habits somptueux, mais qu'elle soit l'homme caché du cœur, dans ce qui est incorruptible, l'ornement d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix. Et cela, dit-il, était l'ornement des saintes femmes d'autrefois, dont se paraît celle qui espérait en Dieu, comme Sarah, dont vous êtes les filles, pourvu que vous fassiez le bien et que vous ne vous laissiez effrayer par aucune frayeur. Et de même, le mari croyant et la femme croyante sont cohéritiers de la grâce et de la vie. Et donc, les femmes croyantes étant héritières de la grâce et de la vie, tout autant que les hommes, elles peuvent communiquer de leur vie, qu'elles héritent tout autant que les hommes, car un héritier de la vie est au-dessus d'un héritier de la terre. Et il n'y a pas de mari croyant qui empêchera sa femme croyante, cohéritier de la vie, de dispenser une part de leurs biens temporels à ceux qui sont dans le besoin. Il ne voudra pas toute la terre pour lui seul, mais lui laissera disposer d'une part, tout autant que lui-même, pendant qu'ils en jouissent, et le service des choses extérieures est le moindre amour. Et les femmes connaissent souvent l'état des familles pauvres, des veuves et de ceux qui sont dans la détresse, plus que les hommes, parce qu'elles sont plus familières de leur famille et de ces choses. Mais il y a beaucoup de bavards oisifs et de gens qui se mêlent de tout, qui sont hors du sens et du service de Dieu, qui ne feront pas le bien eux-mêmes, ni ne permettront aux autres d'accomplir leur service d'amour et de charité pour le Seigneur dans l'Église. Et Jean écrit, dans sa seconde épître, à la dame élue et à ses enfants, « Que j'aime dans la vérité, dit-il, et non seulement moi, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et sera avec nous pour toujours. Je me suis fort réjoui, dit-il, d'avoir trouvé de tes enfants qui marchent dans la vérité. Et il dit encore, « Je ne t'écris pas un commandement nouveau, mais celui que nous avons depuis le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, et ainsi il espère venir la voir et lui parler face à face, les enfants de ta sœur élue te saluent. Amen. » Ainsi n'était-ce pas une femme honorable, qui avait élevé ses enfants dans la vérité, comme Jean l'avait commandé, et il l'avertit contre ceux qui transgressaient et ne demeuraient pas dans la doctrine de Jésus-Christ. Cela n'avait ni le Père ni le Fils, mais ceux qui demeuraient dans la doctrine de Jésus-Christ avaient à la fois le Père et le Fils. N'est-ce donc pas là un encouragement pour toutes les femmes fidèles, à veiller à ce que leurs enfants marchent dans la vérité et demeurent dans la doctrine du Christ, afin qu'ils aient à la fois le Père et le Fils? Et Salomon dit encore, « Une femme bienveillante obtient l'honneur, et une femme vertueuse est une couronne pour son mari, et toute femme sage bâtit sa maison. » Assurément donc, elle a une œuvre à faire, que celui qui a des oreilles entende, mais la femme insensée la renverse de ses mains. Et il y en a trop de celles qui sont dans la transgression de l'esprit et de la puissance de Dieu par laquelle elles doivent bâtir. Mais une femme qui craint Dieu sera louée, donnez-lui du fruit de ses mains, et que ses œuvres la louent aux portes. Et alors, assurément, elle a une œuvre à faire qui doit la louer aux portes. Elle tend ses mains vers le pauvre, oui, elle étend ses mains vers le nécessiteux. Prov 31, 10-28 Ne doit-elle donc pas avoir quelque chose de matériel pour le faire? Elle ouvre sa bouche avec sagesse et sur sa langue est la loi de la bonté. Elle veille à la marche de sa maison et ne mange pas le pain de l'oisiveté. Elle est comme un navire marchand, elle apporte sa nourriture de loin, elle se lève aussi pendant qu'il fait nuit, donne la nourriture à sa maison et des portions à ses servantes, elle considère un champ et l'achète avec le fruit de ses mains, elle plante une vigne, elle ceint ses reins de force et fortifie ses bras, elle voit que son commerce est bon, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Et voici un exemple pour toutes les femmes, un modèle de vertu, de fécondité, de fidélité, de vaillance et de pratique dans l'œuvre du Seigneur, et leurs enfants se lèveront et la diront bien heureuse. Beaucoup de filles ont agi vaillamment, dit-il, mais cette femme les surpasse, c'est-à-dire celle qui les nourrit. Et maintenant, amis, bien d'autres exemples dans les Écritures pourraient être montrés pour encourager les réunions de femmes dans le service de Dieu et de Christ, tant au sujet de leur fidèle témoignage pour le Seigneur et le Christ que de l'encouragement que leur donnèrent les fidèles dans l'Ancien et le Nouveau Testament, montrant qu'elles avaient leurs assemblées et leurs réunions. Et maintenant, étant héritières de la vie, de la grâce et de l'Évangile du Christ, qui a mis en lumière la vie et l'immortalité, vous pouvez voir au-delà de celui qui vous a obscurci et avant qu'il fût. C'est pourquoi cet Évangile, la puissance de Dieu, qui est l'ordonnateur éternel, doit vous garder dans la vie et l'immortalité, afin que vous soyez des aides dans la puissance et l'image de Dieu, auprès des hommes, comme l'homme et la femme l'étaient avant de tomber. Ainsi, pour dispenser des rafraîchissements célestes et temporels à ceux qui en manquent, et pour vous dresser pour votre liberté dans la lumière, la vie, la grâce et le glorieux évangile, étant héritière de la vie de la grâce et de l'évangile du salut et de Jésus-Christ tout autant que les hommes. De sorte que tous, mâles et femelles, sont un en Jésus-Christ, qui est le premier et le dernier, et au-dessus de tous, d'éternité en éternité, votre joie, votre paix et votre bonheur éternel. Et s'il n'y avait aucune écriture pour nos réunions d'hommes et de femmes, le Christ suffit, lui qui rétablit l'homme et la femme dans l'image de Dieu, afin d'être des aides dans la justice et la sainteté, comme il l'était avant de tomber. Ainsi il est notre roc et notre fondement sur lequel bâtir. La sagesse a envoyé ses servantes, elle crie sur les hauteurs de la ville, que quiconque est simple entre ici, et à celui qui manque d'intelligence, elle a dit, « Viens, mange de mon pain et bois de mon vin que j'ai mêlé, abandonne les insensés, et vis, et avance dans la voie de l'intelligence. » Ici, vous pouvez voir que la sagesse de Dieu envoie des servantes, de véritables ministres, chastes envers le Christ, bien que la sagesse du monde ne les reçoive pas, ceux qui font du ministère leur sagesse, et ceux qui ne reçoivent pas la sagesse ne recevront pas ses servantes. Prov 9:1-3 Le Seigneur dit, « Je répandrai sur David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront. En ce jour-là, il y aura un grand deuil, la maison de David à part, et leurs femmes à part, la maison de Néhissen à part, et leurs femmes à part, la maison de Lévi à part, et leurs femmes à part, la famille de Shimei à part, et leurs femmes à part, toutes les familles qui restent, chaque famille à part, et leurs femmes à part. » Zech 12:10-14. Et ceci serait folie pour tous ceux qui ne sont pas dans cet esprit. Mais ici chacun a le sens de Christ, qu'ils ont percé dans l'esprit, qui est répandu sur eux, mais les endurcis n'en ont pas le sentiment. George Fox Marsh Gringe, le 16 du 9 mois, 1676.